Comment nourrir 10 milliards de personnes tout en préservant les écosystèmes? La permaculture, l'agroécologie sont-elles les solutions? De quelle agriculture avons-nous besoin demain? Autant de questions posées lors de la conférence organisée par Kaizen Magazine à l'Institut Goethe en février 2017. Débat animé par Françoise Vernet.
Bonsoir, je m'appelle Françoise, je dirige le magazine Kaizen qui nous fait le plaisir d'organiser cette soirée au Goethe Institute. Comme tous les deux mois, on organise des conférences en lien, enfin conférences, j'aime pas tellement le terme finalement, c'est plus rencontres qui seraient adaptées, en lien avec le dossier du bimestriel. Et ce soir, j'ai le plaisir d'animer la conférence autour d'une question qui peut-être, comme moi, vous tient beaucoup à cœur, c'est demain qu'à l'agriculture. On a essayé d'aller interviewer et rencontrer, notamment Frédéric, je ne sais pas si Frédéric est là, voilà, Frédéric Basset qui a écrit le dossier pour nous, qu'on peut féliciter, d'aller voir des... Allez-y. C'est rare que l'on rencontre les gens derrière des plumes. Nous, on a les plumes et les pixels, hein, donc Frédéric est une plume. Et donc, Frédéric est allé rencontrer des acteurs de la société civile qui, finalement, inventent des nouveaux modèles, font d'autres formes d'agriculture. Pas forcément des gens qui sont extrêmement médiatisés, mais en tous les cas, c'est des personnes qui essayent, à leur échelle et sur leur territoire, de proposer des alternatives à l'agriculture que l'on connaît depuis l'après-guerre. Voilà. Donc ce soir, on a trois personnes qui nous font le plaisir d'être avec nous. D'abord, Nicolas Braik, qui vient du Larzac, qui est éleveur de cochons bio, qui va nous raconter son chemin. À sa gauche, Xavier Mathias, qui lui est plutôt en Touraine.
Oui, c'est ça.
On dit ça ?
Oui, oui, en
voilà.
Touraine.
Et relié au projet Ferme d'Avenir, que vous avez dû voir un peu partout sur les réseaux, parce que, comme dirait notre ministre de l'Agriculture, Maxime est un communicant.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Voilà. Et Jean-Louis Collas, qui nous fait aussi le plaisir d'être là, qui est vice-président du Réseau national des espaces tests agricoles. Voilà, donc la manière dont la soirée va se dérouler ce soir, chacun va présenter et contextualiser sa démarche et ce qu'il fait. J'aurai 3-4 questions à leur poser à chacun pour mettre en perspective. Et ce que l'on aime faire chez Kaizen, c'est interagir avec la salle, parce qu'en fait, c'est vos questions qui nous nourrissent. Et il n'y a pas les sachants d'un côté et les apprenants de l'autre. On est tous en train d'essayer de construire un autre monde pas à pas. Comme vous le savez, Kaizen fête ses 5 ans à la fin du mois, le 28 février, puisque vous avez dû recevoir un mail d'invitation, puisqu'on est très contents de survivre dans ce milieu médiatique qui n'est pas toujours évident. Donc, nous participerons avec vous à cet échange. Il y aura une heure d'échange avec la salle. Je propose que Nicolas, tu inities la danse et que tu nous racontes ce que tu fais dans le Larzac et comment cette question « Demain qu'à l'agriculture » peut-être te taraude.
Alors, bonsoir à tous. Donc, Nicolas Braik, je parle beaucoup, donc il va falloir arrêter un moment. Hein. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous raconter? Alors, sur mon parcours, moi je suis issu d'un parcours particulier qui n'est pas du monde agricole. J'ai fait un bac S après un DEUG MIAS, maths informatique appliquée aux sciences. Et puis j'ai eu ce qu'on appelle un électrochoc de vie, alors qui n'était pas vers l'agriculture, qui était vers les forces spéciales de la marine. C'est un peu particulier, mais bon, chacun ses trucs. Ce qui a été intéressant dans ce parcours-là, c'est que j'ai pu apprendre à me dépasser et à me rendre compte qu'en fait, il n'y avait pas de limites, que les limites qu'on s'impose, elles sont souvent dans nos têtes. Il n'y a pas de limite, en fait. On est tous capables de créer, on va dire, un monde qui, pour moi, déjà, à notre échelle, hein, sur notre vie de Français, est exceptionnel. Ne doutez jamais que vous vivez dans un des pays les plus stables et les plus agréables du monde. Vraiment, ne soyez pas pessimiste, même si on vous écoute les médias et autres. Je peux vous garantir, même si voilà, j'ai une toute petite activité...
Ils lisent tous Kaizen, tu sais, donc ils sont hyper positifs.
Voilà, donc il n'y a pas de souci. Mais restez sur cette optique-là, donc c'est fantastique. Et donc, suite à un accident sur ma carrière militaire, j'ai dû me reconvertir et donc je suis parti sur une formation équestre à Sainte-Afrique, au lycée agricole La Cazotte, parce que j'avais un petit cursus équestre. Et là, il s'est passé on va dire quelque chose qui était assez troublant, c'est que la plupart des différents élèves, moi je me suis renseigné sur ceux qui sortaient de cette formation, personne ne s'installait. Il y avait vraiment pénurie d'installations et surtout des échecs après échecs. Donc au lieu de partir sur du tourisme équestre, j'ai dit bon, bah, il faut un atelier agricole qui fonctionne, et j'étais un grand passionné de cochons. Pour les manger et par l'animal, parce que c'est un animal qui est vraiment attachant et qui a plein de qualités, qui est malheureusement très maltraité partout dans le monde, et qui c'est une horreur. Il faut acheter du bon cochon ou ne pas en acheter du tout. Hein, c'est un impératif. Je sais que vous êtes tous des convaincus ici, mais je le redis, voter un jour pour du cochon industriel, c'est continuer à aider cette chaîne-là, et ça, c'est pas possible. Donc, mis à part ça, voilà, un élevage de cochons bio plein air en extensif. Alors, extensif, peut-être c'est abstrait pour certains. La notion d'extensif, en fait, elle est vraiment non quantifiable. Ce qui est important, c'est de se rendre compte que le cochon, il n'a pas un rapport à l'espace tel qu'on peut le concevoir. C'est pas parce que vous lui donnez 500 mètres carrés qu'il va avoir une meilleure vie que s'il en a 50 hectares. Ce qui est important, c'est la différence de biotope, en fait. Il faut qu'il y ait un peu de plaine, un peu de bois, si possible une petite rivière. Moi, j'ai pas de rivière sur l'Arzac. Enfin, on en a une, mais elle est plus basse. Elle est dans le cirque de Navacelles. Donc c'était un peu compliqué, mais voilà, il faut que votre cochon il puisse se lever le matin et puis manger de l'herbe dans la plaine, puis le soir se retrouver dans la forêt, ça c'est très important. Et donc j'étais sur cette notion-là d'offrir le maximum d'espace au cochon, avec plus d'un hectare par cochon. Alors on passera aux questions, mais on peut déjà rigoler, est-ce qu'il y en a qui connaissent la superficie allouée à un cochon industriel? Non? Ah, c'est beaucoup monsieur, vous êtes très très généreux. 0,6 mètres carrés pour un cochon à l'engraissement. D'accord ? Il ne peut pas reculer, il ne peut pas bouger, il ne peut pas manger. Donc on va être positif ce soir, mais pour vous dire le ratio. Hein, entre, alors une truie, c'est vrai que c'est 2 mètres carrés. Donc si on prend les truies, chez moi, elles ont 10 000 mètres carrés et 2 mètres carrés en élevage industriel. Donc il y avait vraiment cette notion-là, et j'ai eu cette chance d'être accompagné par beaucoup de grands chefs que j'ai certes démarché moi-même, mais qui m'ont surtout ouvert leurs portes. Parce que ce sont des gens qui, finalement, lorsque vous êtes authentique, vous n'êtes pas un des commerciaux qui font la queue, parce que c'est terrible quand vous arrivez dans des grands restaurants, vous apercevez qu'il y a du monde qui fait la queue. Mais quand vous êtes authentique, que vous avez vraiment quelque chose à apporter, et un savoir-faire et une passion, ils vous ouvrent leur porte et ils vous parlent. Et j'ai eu un très très beau parcours culinaire avec une récompense assez ultime pour les 25 ans du Louis XV d'Alain Ducasse, j'ai été élu parmi les 20 meilleurs produits du monde, voilà, par tous les grands chefs. Donc le cochonnet du Larzac, c'est un petit cochon de lait qui a une vraie vie de cochon, mais qui va être, on va dire, momentanément interrompu pour qu'on puisse s'en délecter. Mais finalement, par rapport au grand tout, il vaut mieux faire 2 mois dans mon élevage que 6 mois dans un élevage industriel où on va résumer 6 jours, parce que même un jour, c'est terrible. Donc voilà, il y avait ce rapport-là. Le cochonnet, c'était quelque chose qui n'existait plus. Et on avait un manque dans la gastronomie française au niveau du cochon de qualité. Donc moi, j'ai essayé de remédier à ça. Et plus le temps avançait, plus je me rendais compte qu'il y avait un rapport qui collait pas. Donc j'ai, bien sûr, en bio, en extensif. Et j'étais formateur, j'ai aidé à former les contrôleurs bio, pour justement expliquer quels étaient les possibles de dérives, malheureusement, de certains éleveurs qui veulent passer au bio pour le bio-business, et comment on pouvait lutter contre ça. Donc j'ai cet avantage-là d'avoir un peu d'historique et de connaître un peu tous les chemins possibles. Et lorsque je parlais de tout ça, je me suis rendu compte qu'en fait, certes, j'étais en extensif, j'avais un cochon qui était plébiscité par les plus grands restaurants, mais j'avais un manque de lien au sol. C'est-à-dire qu'en fait, mon cochon mangeait sur place, mais j'apportais une quantité importante de céréales bio qui venaient des fermes le plus possible proches. Mais je me disais, il y a quand même quelque chose qui ne colle pas. J'ai un élevage de cochon qui est en extensif, mais qui est hors sol. En fait, je produis pas la nourriture que... Enfin, je nourris pas les cochons avec la nourriture. Et donc là, ça m'a perturbé. Et le fait d'avoir justement réussi financièrement, parce que ça, c'est, il faut en parler, de beaucoup de paysans qui ont du mal à vivre, hein, tout simplement. Moi, j'avais cette aisance-là et cette capacité de financement sur des projets, parce que je gagnais bien ma vie. Et je me suis posé des questions et j'ai commencé à avoir cet objectif qu'on va atteindre en 2018 de zéro céréales sur mes cochons. Et c'était un pari fou, mais c'était un pari qui me paraissait réalisable. Alors j'ai tout simplement fait des grandes balades et avec mes amis, avec mes yeux, j'ai regardé ce que j'avais autour de moi. Et beaucoup de paysans ne regardent pas ce qu'ils ont autour d'eux. Moi, je me suis aperçu qu'en fait, l'ensemble de mes terrains était embroussaillé à plus de 70% par le buis. Donc un végétal qui est très prisé dans les châteaux, mais je peux vous garantir que sur le Larzac, on a beaucoup de mal avec mon associé et mes amis à ce qu'ils ne les brûlent pas, parce qu'ils n'en peuvent plus. Il y a trop de buis. On ne peut même plus pâturer tellement il y a des buis, on ne peut plus passer entre deux végétaux. On a pu constater ça, hein, sur les reportages. Et donc dans ce cheminement-là, l'idée c'était de faire quelque chose de ces buis. Et vu que je suis sur un terrain très particulier, le Larzac avec écrit encore l'armée d'Ordici sur le pylône sur le pylône de l'entrée du village, j'ai eu des irréductibles et le matin de la naissance de ma deuxième fille, j'ai eu un très très beau cadeau en plus de ma fille, c'est que j'ai eu les méthodes Jean Pain sur ma table, comme ça, pour la naissance de Naïs, mon voisin qui m'a écrit ça, qui est un universitaire en lettres, et qui a beaucoup voyagé en Syrie. Et il m'a laissé ça, et je suis, ça va peut-être vous choquer, mais je ne lis pas de livres. J'ai jamais lu de livres. Et c'est certainement le premier livre que j'ai lu, Les méthodes Jean Pain. Alors, c'est pas un livre, hein, c'est un recueil. Et j'ai dévoré ça, et j'ai vu le lien direct de la, on va dire, des mécanismes du vivant entre l'énergie solaire primaire et la capacité à générer de la vie. En fait, la broussaille, c'est notre potentiel vie de demain. C'est vraiment comme ça que je l'ai perçu. Et alors là, j'ai tout de suite, on va dire, foncé, trouvé le moyen d'avoir un broyeur Jean Pain. Donc le père de mon associé a acheté le tout petit, le 280, à équipe Jean Pain. Un petit broyeur qui est vraiment une brouette, hein, mais avec lequel on peut un petit peu faire trois copeaux. Et là j'ai commencé à avoir un peu mal aux dents parce que je me suis rendu compte que pour faire une brouette de broyat, eh ben, il en fallait de l'énergie, il en fallait de la volonté. Et puis on a essayé de passer avec un broyeur sur tracteur un peu plus gros et là j'ai commencé à réquisitionner les gens pour débroussailler et puis je m'apercevais que de plus en plus, eh ben, on me fuyait. Ah non, non, pas lui, il va nous faire couper des buis. Et là j'ai dit, il y a un problème, il y a une erreur dans l'équation, il y a quelque chose qui n'est pas envisageable. On est tous des humains avec un parcours, mais au niveau de la dépense énergétique et de la relation à notre effort, on est déconnecté. C'est-à-dire que maintenant, on se rend plus compte que finalement, pour avoir tel et tel objet ou pour avoir telle et telle quantité de nourriture dans l'assiette, il y a tant d'énergie. Et on est arrivé jusqu'à cette aberration, hein, du kilo de farine francine, un kilo de farine francine pour 6 kilos de pétrole. Hein, c'est actuellement ça. Et aux États-Unis, c'est 9. Hein. Donc, on est complètement déconnecté. Et donc, c'était même pas envisageable de monter une espèce d'accueil ou un centre de reconversion au travail, parce que c'est très dangereux, c'est extrêmement physique, et puis il faut récolter en tout temps, quand il neige, quand il pleut. Le Larzac, c'est très beau au printemps, mais je peux vous garantir que l'hiver, c'est pas rigolo, hein. Il y a des jours, c'est très humide, ça peut être très froid, très venteux. Donc voilà, j'ai décidé de partir sur un système de modélisation de la main humaine sur une machine. Une machine qui est une machine connue pour certains, peut-être... Mécalac, donc c'est un engin français qui est produit à Annecy et qui a une cinétique de bras, donc une pelle mécanique, mais qui a une cinétique qui ressemble au bras humain. On peut casser, on peut prendre, on peut lever. Et là-dessus, on a développé un sécateur spécifique au buis qui nous permet en fait de faire de la cueillette. Donc qu'est-ce qu'on est? En fait, on est des cueilleurs de buis, des buis saharidou, c'est-à-dire un vieux terme local pour autoriser à couper les buis, parce que c'était une ressource très précieuse. Et ce cheminement est allé donc jusqu'à présentation à Claude et Lydia Bourguignon, qui sont des amis, avec lesquels on a beaucoup pensé à co-développer ce projet. Eux ils avaient des soucis, on va dire, ils développaient aussi un domaine à Cahors, donc ils n'ont pas pu investir directement.
Je ne sais pas si tout le monde connaît les médecins du sol, Claude et Lydia Bourguignon, peut-être dire deux mots.
Voilà, alors Claude et Lydia, qui sont des spécialistes de la microbactériologie des sols, plus 35 000 sols étudiés dans le monde, la plus grande banque de données de profils de sols jamais faite par l'humanité. Des gens exceptionnels, d'une gentillesse et d'un amour fantastique, et qui ont surtout fait ce constat alarmant des 77% des sols européens qui sont morts ou en train de mourir. Donc c'est dramatique, on est vraiment là-dessus. On a besoin de la broussaille pour redonner vie à tous ces sols, parce qu'on est vraiment sur un constat qui est pire qu'alarmant. Et donc c'est Claude et Lydia qui ont été aussi au début de cette aventure. Et donc notre idée principale était de travailler sur la gradation des sols, hein, en opposition à la dégradation. La gradation qui en fait reprend les mécanismes naturels de la forêt, la méthode Jeanpin. Donc on coupe la broussaille, on la cisèle, on la met en tas. Pendant qu'elle est en tas, les mécanismes d'annulation des biocides, alors là c'est un peu barbare, mais les biocides, ce sont les molécules de défense naturelle du végétal pour favoriser sa propre semence. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez un buis, il va travailler le sol de façon à ce que ses graines poussent plus facilement que d'autres essences, ce qui est logique, hein, c'est la guerre du vivant. Et ces biocides, en fait, sont problématiques. Alors, je veux tout de suite ne pas rentrer dans les guerres de clochers, mais nous, on a choisi la méthode Jeanpin parce que c'est une méthode qui est un peu une méthode clé en main, qui permet d'avoir un substrat opérationnel où on peut semer, récolter avec le minimum d'apport d'eau tout de suite. C'est-à-dire vous mettez 7 cm sur votre sol, vous semez vos graines, ça pousse, vous récoltez, vous recommencez. Il y a forcément une fonte en fonction de l'état d'activité biologique de votre sol, mais vous êtes sur un système, moi j'appelle ça de jardinier feignant. Alors on pourra disserter là-dessus, mais moi je suis un gros feignant en fait. Voilà, je trouve qu'il y a des choses qui se font toutes seules, donc il faut faire ça. Et donc dans ce cheminement-là, contrairement au BRF, le bois raméal fragmenté, on a un pré-compostage. Alors même le terme est faux, on va parler de fermentation, parce que plus on avance dans le temps, et nous on commence à développer avec l'équipe Jeanpin et tous les scientifiques, c'est pas un compostage ni un pré-compostage, parce qu'il n'y a pas de minéralisation du tout. Donc on est vraiment sur une fermentation anaérobie non stricte qui permet en fait de rendre disponible cette matière ligneuse. Donc la lignine, hein, c'est la molécule qui tient les arbres droits, vivants, des arbres debout. Et cette molécule, c'est la plus dure à déstructurer du vivant. Il faut des champignons qui sont spécialisés là-dessus, donc les actiomycètes et bactiomycètes, alors surtout une branche de certains bactiomycètes, qui sont en fait spécialisés dans la déstructuration de cette molécule et qui va permettre de rendre cette matière disponible au sol. Et alors, très belle récompense pour nous, après avoir analysé des milliers et des milliers de composts, hein, là, les bourguignons, on leur envoie donc des broyats pour demander l'activité biologique. Le Buxor fait partie, donc ce qu'on fait nous, hein, du broyat de buis fermenté, fait partie des broyats les plus vivants qu'ils aient jamais mesurés. Alors ça, c'était fantastique, parce qu'on est vraiment sur quelque chose qui a du sens et qui fait que pour demain, on peut y arriver. Bon, je vais essayer de ne pas occuper tout l'espace-temps.
Avant que je te prenne le micro, peut-être juste parler quand même de l'histoire des larves, parce que dans l'idée circulaire totale de réfléchir à une activité qui est à la fois... permet la vie, restaure la vie, il y a quand même...
Alors voilà, toujours dans ce souci de boucle vertueuse, hein, donc de ne jamais d'avoir tout le temps quelque chose de bénéfique, on a utilisé donc la chaleur pour chauffer la chaleur des tas, hein, je me comprends, ceux qui ne connaissent pas la méthode Jeanpin, donc les tas ils chauffent, hein, je vous dis ça fermente, on met des cuves à eau dedans, on utilise la chaleur dans tout le bâtiment pour chauffer la maison d'habitation et l'élevage d'insectes, et on élève des larves saproxylophages, alors c'est un peu barbare, mais ça veut dire qu'ils mangent du bois mort, donc des cétoines dorées, c'est l'emblème de Buxor, la cétoine, donc le scarabée qui est aussi le renouveau de la vie, on élève ces larves à destination des cochons, et des humains, parce qu'on a eu récemment l'accréditation d'alimentation humaine, c'est-à-dire que la DSV de Montpellier nous a autorisé à donner nos larves aux humains, tellement notre procédé était sain, qu'on maîtrisait tous les entrants et que l'élevage en fait était dans une boucle, on va dire, interne. n'y a aucun entrant extérieur et qui est le système d'élevage est vraiment tout en bois, en ossature bois et on va dire respirant. Donc on a vraiment sur un système en boucle fermée avec une utilisation de chaleur produite sur le plateau. Une petite aparté, tous les buis qu'on sectionne, enfin qu'on coupe, c'est vraiment de la cueillette parce que tout le système racinaire reste en place et il repousse. Donc c'est vraiment de la moisson de broussailles. Hein, il ne faut pas se focaliser que sur le buis, la méthode Jeanpin marche avec toutes les végétations. Mais on ne touche pas aux arbres. Les arbres sont la base de la vie dans la forêt. Plus vous laissez d'arbres, plus c'est productif. Et je fais des rotations avec des ovins et des porcins qui permettent d'avoir meilleure fertilisation et voilà, l'agro-silvopastoralisme pour ceux qui connaissent.
Merci. On va passer à Jean-Louis qui va nous raconter une autre initiative autour de cette idée d'espace test agricole.
Oui, bonjour à tous. Moi, je suis paysan retraité depuis 6 ans maintenant. J'ai fait toute ma carrière en agriculture, d'abord en agriculture conventionnelle, comme on a pour habitude de l'appeler. Et j'ai converti ma ferme en bio à partir de 2000, de l'année 2000. Et je me suis mis progressivement à faire du maraîchage. C'est une ferme de polyculture élevage qui se trouve dans la vallée de la Seine, Sud-Seine-et-Marne, à la limite de l'Aube et de Lyon, donc des deux régions voisines. Ferme en polyculture élevage sur laquelle on a élevé, mon grand-père élevait des vaches laitières, des cochons, enfin tout ce qui se faisait à l'époque, qui s'est progressivement modifié, évolué avec l'arrivée de la mécanisation de l'agriculture dans les années 60. À une période se spécialiser plutôt en céréales et cultures industrielles, betteraves sucrières entre autres, légumes de plein champ, enfin voilà, un certain nombre de productions qui consommaient à la fois beaucoup d'engrais et beaucoup d'énergie. J'ai fait ma conversion en 2000 parce que j'avais rencontré aussi Claude et Lydia Bourguignon qui sont venus sur mon exploitation, avec qui on a réfléchi sur l'évolution des sols et qui font partie des déclencheurs de mon évolution vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement.
Excuse-moi Jean-Louis, juste pour vous dire, il y a des places en fait devant, donc je sais que c'est hyper confortable la moquette,
ouais.
mais en fait il y a une place, places, deux places, trois places, quatre places, cinq places, surtout si vous êtes enceinte par exemple, je pense que c'est mieux d'être assis confortablement. Excuse-moi Jean-Louis, mais comme il y a plein de places, je me dis c'est dommage, il y a encore des places là, regardez au milieu, sauf si vous voulez partir avant la fin, mais...
Donc effectivement, j'ai fait ma conversion vers la bio pour un certain nombre de raisons, dont celle d'être plus proche d'une agronomie réelle du sol. Je pense que dans ma conversion, il y avait aussi l'idée d'être producteur d'alimentation et non plus de matière brute, comme on avait... comme une grande partie de l'agriculture, malheureusement, aujourd'hui, est encore productrice plutôt de matière brute que de matière finie, à part ceux qui sont sur des systèmes d'élevage. Mais voilà, en céréales, aujourd'hui, on produit des matières brutes. Et moi, je pense que je suis venu vers la bio aussi pour pouvoir produire de l'alimentation, ce qui m'a rapproché, en faisant du maraîchage, du réseau des AMAP Île-de-France. Parce qu'il y avait une forte demande dans le début des années 2000 de groupes de consommateurs qui se constituaient et qui ne trouvaient plus sur le territoire francilien de maraîchers pour alimenter leur panier hebdomadaire. Au travers de toute cette démarche et du contact avec les consommateurs, j'ai fait toute cette évolution vers un système qui produit de l'alimentation. Or, dans ce réseau, justement, avec la croissance des groupes de consommateurs, on n'avait plus assez de producteurs. pour alimenter ces groupes, obligé d'aller chercher des paysans dans les départements, les régions voisines, ce qui ne simplifie pas la relation entre le producteur et le consommateur. À partir de 2007-2008, il y a une réflexion qui a émergé dans le réseau autour de l'idée de couveuse ou pépinière d'entreprise. Alors, les pépinières d'entreprise existaient déjà depuis quelques années. L'idée de couveuse a été introduite par une loi en 2004, il me semble. L'idée, c'est de pouvoir préparer un futur entrepreneur, entre guillemets, sans préciser dans quel domaine d'ailleurs, puisque les couveuses s'appliquent à tous les corps de métier. Sauf que la loi sur les couveuses avait oublié l'agriculture. Comme à chaque fois qu'on fait des nouvelles choses, on oublie souvent qu'il y a des agriculteurs encore en France.
On n'a pas besoin de se nourrir pour vivre.
Non, on n'a pas besoin, voilà, c'est ça. Et donc, en 2008, au niveau du réseau AMAP, on a décidé de démarrer une étude pour la création d'une couveuse sur l'Île-de-France. On s'est heurté à pas mal de portes fermées, notamment pour trouver des terrains pour pouvoir mener notre expérience. J'avais des terrains, j'étais en polyculture avec à peu près 3 hectares de maraîchage et j'avais 80 hectares de culture céréalière, de l'élevage ovin à côté. Donc j'ai proposé qu'on démarre l'expérience de couveuse chez moi en laissant un hectare de céréales pour augmenter la surface en maraîchage et permettre d'accueillir les deux premiers couvées, entre guillemets. Alors couvée, c'est un terme qui n'est pas très heureux, mais voilà, on a démarré comme ça. Aujourd'hui, on les appelle plus facilement compagnons ou entrepreneurs à l'essai. L'idée qu'on a beaucoup développée dans notre association, puisqu'on a démarré sous format association qui s'appelle les champs des possibles, l'idée c'est qu'on travaille un peu comme dans les métiers du bâtiment ou de l'art, où on a des compagnons qui apprennent le métier à côté des maîtres qui sont expérimentés. Et du coup, c'est que l'idée, c'est de pouvoir transmettre nos savoir-faire paysans, tous les gestes du quotidien. Et donc, ces jeunes ou moins jeunes, puisqu'on en a certains qui sont arrivés chez nous depuis, qui avaient la cinquantaine bien appuyés, qui, même à 50 ans, ont osé faire 3 ans de couveuse et s'installer comme maraîcher ensuite. L'idée c'est que donc on leur met à disposition concrètement, donc on leur met à disposition à la fois du terrain, du matériel, des formations et un tutorat. Donc un maraîcher ou un paysan expérimenté qui peut leur donner au quotidien, leur transmettre tous ces savoirs, tous les gestes qui sont nécessaires pour arriver à faire pousser des légumes, mais aussi à élever des animaux, mais aussi à produire du blé pour faire du pain. Donc aujourd'hui, notre espace test, les champs des possibles, a beaucoup grandi. On a plus de 12 sites d'accueil sur l'ensemble de l'Île-de-France. Cette année, en 2017, on va avoir à peu près une vingtaine, 20 ou 22 personnes accompagnées. Ceux qui se sont installés depuis à 95% de ceux qui sont sortis chez nous sont installés de façon durable depuis plusieurs années. Ceux qui ne se sont pas installés en sortant de chez nous, soit ils ont pris un statut de salarié parce qu'ils n'avaient pas trouvé les terrains ou parce qu'ils ne se sentaient pas prêts à être entrepreneurs, préféraient rester comme salariés. Soit ils sont toujours en recherche de terrain, parce que sur l'Île-de-France, trouver ne serait-ce que 2 ou 3 hectares ou 5 hectares pour s'installer, c'est compliqué. Il y a une pression foncière énorme.
Vous collaborez avec Terre de Liens, par exemple, ou
on travaille en étroite collaboration avec Terre de Liens. D'ailleurs, Terre de Liens a acheté les terres de ma ferme, de la ferme que je cultivais, qui est devenue donc la première ferme Terre de Liens en Île-de-France, puisque à l'époque, quand j'ai voulu arrêter, les terres menaçaient d'être rachetées par les voisins qui voulaient s'agrandir en agriculture intensive.
Toujours le même scénario.
Oui. Et donc, on travaille donc en étroite relation avec Terre de Liens, avec le réseau des AMAP Île-de-France et aussi avec le GAB, le Groupement des agriculteurs biologiques d'Île-de-France. À nous quatre, on constitue ce qu'on appelle le pôle Abiosol, qui accompagne donc des porteurs de projets, des gens qui ont envie de revenir à l'agriculture. Depuis la toute première idée de leur projet jusqu'à la réalisation, quand on peut, quand ils peuvent, quand ils acceptent d'aller jusqu'au bout, par un parcours composé d'un certain nombre de formations qui sont progressives, qui leur permettent d'abord de tester leur idée, après de faire des stages concrets dans un certain nombre de fermes sur la région, pour bien maturer leur projet et être sûr qu'ils ne font pas une fausse route. Et quand ils passent ensuite donc chez nous au champ des possibles, c'est que là, ils sont sûrs qu'ils vont s'installer. Enfin, ils ont encore une porte de sortie, hein, puisque quand ils sont chez nous, ils ont un statut qui n'est pas le statut de salarié, qui n'est pas le statut d'entrepreneur, qui est un statut intermédiaire, mais qui est autorisé par la loi. Et qui permet d'avoir une couverture sociale et une couverture juridique légale et qui leur permet donc de faire marche arrière sans avoir eu besoin d'investir dans du matériel, dans une installation qui peut coûter cher. Le contrat, il est d'un an renouvelable deux fois, donc ça fait 3 ans au total. Et s'ils veulent arrêter au bout d'un an parce qu'ils se disent non, vraiment, c'est pas ça que j'ai envie de faire, ça nous est arrivé, on en a un, surtout ceux qui sont passés chez nous, plus d'une vingtaine aujourd'hui, donc il y en a un qui a arrêté parce qu'il s'est dit non, j'ai pas envie de faire ce métier. En tout cas, j'ai pas envie de faire de maraîchage, je voudrais faire plutôt des grandes cultures avec un peu d'élevage, mais voilà. On n'avait pas à l'époque le socle pour lui proposer autre chose, donc. Il s'est cherché autrement, il a été salarié dans une ferme, voilà, il a fait un autre parcours. C'est l'intérêt du système, c'est que c'est la réversibilité de ce statut qui leur permet donc de ne pas être lié par un contrat qui les lie pour je ne sais combien d'années. Et par ailleurs, autre avantage du statut, c'est que ça leur permet aussi, puisque au début, les gens qui sont en formation, apprentissage, sont moins performants que quelqu'un d'expérimenté et donc ne vont pas avoir des résultats économiques très, très bons à la fin de l'année. Et pour compenser ça, la possibilité leur est offerte de continuer de toucher leurs indemnités chômage. Ils ont des indemnités chômage, ils sont inscrits au chômage. Ou des indemnités de formation s'ils ont acquis des droits formation. Ce qui leur permet d'avoir un minimum pour vivre, alors que l'activité qu'ils sont en train de développer et d'apprendre à construire n'est pas complètement rentable. Voilà.
Alors, j'ai une question avant de passer la parole à Xavier. Donc, initialement, ça a été plutôt lancé en Île-de-France, en fait.
Alors, quand on a démarré en 2008, on était trois sites en France. Mmh. Donc, l'Île-de-France, la Drôme, et puis dans le sud-ouest, mais je ne me rappelle plus le...
Oh, le Gers, sans doute.
Non, je ne suis pas sûr. Non, je crois pas que ce soit le Gers. Je me demande si ce n'est pas la Dordogne. Aujourd'hui, des espaces tests agricoles, on représente donc un réseau national de 70 espaces tests qui s'appelle RENETA, Réseau National des Espaces Tests Agricoles, tout simplement. 70 espaces tests adhérents, dont plus de 40 sont en activité et les autres sont en finalisation de construction, quoi, parce que c'est construire un espace test, c'est aussi nouer un certain nombre de relations entre plusieurs partenaires. On a souvent la FADEAR, les CIVAM. On a des lycées agricoles ou des CFPPA. On a dans certains cas des chambres d'agriculture.
Il y a une dynamique territoriale
et il y a aussi dans un certain nombre de territoires aussi les collectivités locales, les communautés de communes qui sont très investies aussi dans l'espace test.
Tu nous parlais de Nantes tout à l'heure par exemple, je crois que c'est un exemple assez...
Alors Nantes, la SIAP, oui, qui est, qui est une coopérative, c'est une SIC comme nous, puisque depuis 2016 on est passé en statut SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Et donc la SIAP, c'est une SIC dans laquelle la communauté d'agglomération du Grand Nantes est incluse, dans laquelle il y a un certain nombre de communes, dans laquelle il y a la Chambre d'agriculture, il y a le Crédit Agricole, il y a d'autres banques même, je crois, qui s'est constituée autour d'un pôle agricole revitaliser toute une campagne qui était en train de partir en friche parce qu'il n'y avait pas de successeur à un certain nombre de fermiers qui sont partis à la retraite et donc des zones entières qui étaient en train de repartir en friche. Et l'idée, c'est d'arriver à donc aller voir les propriétaires. Chez eux, ils font beaucoup de travail avec les propriétaires pour inciter les propriétaires à relouer de nouveau à des jeunes qui vont venir s'installer. Donc ça s'appelle, donc CIAP, ça veut dire coopérative d'installation en agriculture paysanne. Donc ils sont assez proches aussi de la Confédération paysanne. En général, la Confédération paysanne est assez proche de nos réseaux.
Et qui est très forte à Nantes, qui a été forte à Nantes pendant des années,
je crois. Oui, oui.
Pour ne pas dire des décennies. Merci Jean-Louis. On va passer à notre troisième intervenant, Xavier. Alors j'aime bien dans ce livre, on dit un dogon dans le potager.
Voilà. Ça c'est beaucoup trop flatteur. J'ai la chance de faire des échanges réguliers avec les paysans dogons du Mali. Donc, sachant qu'en plus de ça, ce n'est pas une région très très accessible politiquement, moi d'avoir la chance de pouvoir y aller à peu près tranquillement, ça c'est vraiment assez énorme. Et par contre, oui, ça nous amène directement au sujet de ce soir, puisque c'est à leur côté que j'ai découvert combien je m'étais trompé. Donc, je vais vous raconter moi mon parcours rapidement. Donc moi je suis issu du milieu agricole. Ce qui n'est pas du tout obligatoire pour être agriculteur, qui peut présenter des avantages, des inconvénients aussi avec une espèce de on a un petit formatage, mais c'est aussi des avantages par rapport à des soucis de réalisme, voilà, de la profession, des rythmes que ça suppose, etc. etc. Je suis un pur produit de l'échec scolaire. C'est-à-dire que moi j'ai commencé à apprendre en quittant l'école, mais on est de plus en plus nombreux, hein, et où il faut qu'on quitte l'école.
Ça peut sourire Ramine de l'école dynamique.
Pour enfin pouvoir commencer à apprendre. Après, c'est un système, je ne remets pas en cause le système scolaire, il est tel qu'il est. Néanmoins, il laisse des gens sur le bord du chemin et j'en ai fait partie. Après, il ne les laisse pas définitivement, parce qu'on trouve toujours une voie. Et donc moi, ma voie, je l'ai trouvée dans le maraîchage il y a des années maintenant, après avoir eu un parcours dans plein d'expériences agricoles, conventionnelles, élevage caprin, bovin, du bio, etc. Et puis, ça m'a toujours plu ce que j'ai fait, mais jamais j'ai eu le déclic. Et puis un jour, je suis allé bosser chez un maraîcher bio en Normandie. Et là c'est vraiment une chance que je souhaite à tous. C'est quand vous savez que vous êtes à votre place. Voilà, là, on le sait, ça y est, c'est là. Et donc, c'est parti comme ça. Et depuis, je me suis intéressé, autre coup de chance, à la diversité des plantes potagères, bien avant qu'on en fasse le cas qu'on fait maintenant, et avec toute cette légende des légumes oubliés, etc., qui n'en sont pas, hein, pour l'essentiel. Ce serait un autre débat. Néanmoins, ça fait très longtemps que je m'intéresse à ça. Mes légumes n'ont pas tellement changé, hein, depuis toutes ces années. Par contre, l'intérêt qu'on leur porte, lui, a énormément changé. Et ça, c'est encore une bonne nouvelle. Je trouve que ça aussi, c'est des élans qui sont vraiment très, très positifs. C'est-à-dire qu'on semble s'apercevoir brusquement qu'il y a plein de choses autour de nous et que par rapport à un discours convenu qui est de parler d'une espèce de forme d'érosion de la biodiversité des plantes cultivées, Non, pas du tout, hein. On n'a jamais eu, en tant que jardinier, autant d'espèces et de variétés de plantes potagères à portée de main. Là, si mon grand-père revenait chez moi, il ne reconnaîtrait pas les plantes. Voilà, poire de terre, il n'a jamais vu. Uluc, il n'a jamais vu. Même bêtement une patate douce, hein, il n'a jamais vu. Il n'avait jamais vu tout ça. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on a plusieurs postures. Il y en a une qui peut être de rester dans la plainte et de se dire, il y a une érosion, c'est un drame. Et puis, il y en a une autre qui est de dire, mais regardons autour de nous, il y a Semaille, il y a Biogerme, il y a Germinance, il y a tous ces gens qui font un travail mais absolument exceptionnel. Et puis, on a une autre chance aussi. Là, ça va paraître provocateur, mais nous, on a cette chance d'être dans un courant de mondialisation heureuse. On doit être les seuls au potager à avoir cette mondialisation heureuse, puisque jamais les semences et les informations qui vont avec pour les cultiver n'ont voyagé aussi facilement et rapidement. Donc là, voilà, vous décidez de cultiver de la bardane japonaise. Un conseil que je vous donne, c'est très très bon. Hein. Ça, vous trouverez les graines chez Biogerme, par exemple. Si vous voulez des infos, vous envoyez un mail au Japon, il y a bien quelqu'un qui va vous répondre. Hein. Donc en plus, et voilà, qui va vous expliquer qu'en cycle à 90 jours, c'est meilleur, que c'est là que ça ne fibre pas, etc. Donc ça veut dire que...
Et on en fait quoi de la bardane japonaise quand elle a poussé, qu'elle est jolie dans son jardin?
Ah, c'est super bon. Alors déjà, me lance pas là-dessus. Oui, tu fais comme tu veux, mais tu prends un risque. Un petit conseil rapide. Dès que c'est... vraiment, tout ce qui est d'origine japonaise, asiatique en général, il y a une vraie culture du végétal là-bas. Et allez-y en toute confiance. Hein. Déjà, il faut vraiment avoir une curiosité naturelle vers ce qui vient d'Asie. Et donc, c'est une racine qui est vraiment fine, qui évoque un petit peu le salsifis, qui contient de l'inuline. Donc, il y a une toute petite amertume qui est vraiment légère, vraiment agréable. Et voilà, ce qu'il faut, c'est la cultiver assez vite pour pas qu'elle ait tant de fibrer. La bardane, vous savez, c'est ce qui fait ce qu'on appelait les gratrons, là, les trucs qui s'accrochent partout. Voilà. Et donc, c'est pareil, il vaut mieux éviter de la laisser grainer. Parce que, bon, alors, on a le temps, il lui faut 2 ans, mais il faut éviter de la laisser grainer parce qu'elle est un petit peu entreprenante. Et donc, voilà, on a vachement de chance hein, là de pouvoir cultiver à ce point, d'avoir les informations. Ce qui est drôle aussi, moi, ce qui me fait vraiment marrer, c'est de voir que là, les frontières, les états, là, ils ne peuvent plus rien contrôler, rien. Si vous voulez faire passer, c'est impossible. Si vous voulez faire passer des graines, envoyer des graines au Mexique, vous les mettez dans un CD, bêtement, dans un boîtier de CD. Ils ne vont pas ouvrir tous les boîtiers de CD. Et puis voilà, et puis ça arrive là-bas. Et puis il n'y a que pour les tubercules que c'est un petit peu compliqué. Et encore, on y arrive. Donc, parce que souvent, on peut les faire passer pour des plantes. On peut juste arguer du fait qu'on va les manger. Hein. Moi, j'ai ramené l'oignon d'Ogon comme ça, hein, en disant, mais non, c'est pour ma consommation. Je l'adore, on ne le trouve pas en France et c'est pour le manger. Or, ça y est, il est planté. Hein. On est joueur hein, quand même. Puis surtout que c'est rigolo parce qu'il vient de France à l'origine. C'est Marcel Griol qui l'avait emmené dans les années 30. On l'a perdu en France. Et il est vachement intéressant en fait. Sauf que là, quand on le ramène du pays d'Ogon, où en hiver, il fait 30, là-bas, quand il fait vraiment froid, il fait 30 degrés, et qu'on le ramène ici, il a un petit peu de mal à comprendre ce qui lui arrive. Donc là, ça fait plusieurs échecs, mais on va arriver à le remettre en route. Donc j'ai vachement digressé, on était parti des Dogon. Moi j'étais maraîcher, du coup je me suis mis à mon compte et je produisais toutes ces du plan, du légume aussi, et puis de la semence de toutes ces variétés qui étaient soit pas produites du tout, hein, soit pas produites en bio. Voilà donc des choses que j'ai pas introduites, hein, parce qu'au potager on n'invente rien, on ne fait que redécouvrir hein, ce qui a déjà été vu. Il y a très peu de plantes qui n'ont pas déjà été vues, étudiées, etc. Hein. À ma connaissance, il n'y en a même qu'une seule, c'est le Ablisia tamnoides, l'épinard du Caucase. Tous les autres, on trouve des sources précises, que ce soit la quinoa, la patate douce, etc. Hein. Donc on n'invente pas. Par contre, on fait une relecture. On apporte une vision différente. Et donc moi, j'ai produit de la semence, du plan, etc. Jusqu'à ce que le fait de m'apercevoir, mais au contact de mes amis Dogon, hein, combien je m'étais trompé pendant toutes ces années, est devenu insupportable. Alors là, je vais dénoter un petit peu par rapport au à l'intitulé de la soirée, et faire un peu, me permettre un petit reproche, c'est que lequel agriculture soit au singulier. Moi, je l'aurais préféré au pluriel, parce que je pense que pour demain, il va en falloir plein des agricultures. Et pendant des années, moi, j'étais persuadé que on avait deux formes essentielles d'agriculture, avec, après, on pourra mettre des nuances de gris si on veut, mais essentiellement conventionnelle et agriculture bio. Donc moi, j'ai toujours été en bio. Je pensais que c'était les deux formes d'agriculture. Or, je me suis vraiment trompé. En fait, il y a bien deux formes d'agriculture, ce dont je me suis rendu compte, mais ce n'est pas celle-là. C'est l'agriculture commerciale, la nôtre, et l'agriculture vivrière, avec vente des excédents. Alors, considérant que le métier d'agriculteur, en fait, il est super simple. Hein. On essaie de nous faire croire que c'est compliqué. Mais en fait, c'est facile. Nous, notre boulot, c'est produire de l'énergie sous forme de calories. C'est que ça. Voilà, c'est vraiment notre métier, ce n'est que ça. Donc une fois qu'on sait que notre métier, c'est de produire de l'énergie sous forme de calories, bah, c'est vachement facile. Soit on le fait bien et on produit plus d'énergie qu'on en consomme, soit on le fait mal et on consomme plus d'énergie qu'on en produit. Or, nos agricultures bio, conventionnelles, etc., consomment plus d'énergie qu'elles en produisent. Et ça, alors tant qu'on s'appuie sur l'épuisement des ressources de nos voisins, l'uranium du Mali, justement, puisqu'on y était voilà, pour faire tourner nos pompes électriques, hein, c'est le pétrole qui vient de plus en plus d'Afrique aussi, etc. Donc tant qu'on épuise les ressources des voisins, notre système d'agriculture commerciale fonctionne. Voilà, il arrive à s'insérer dans l'économique. Sauf que voilà, au bout d'un moment, moi, d'avoir pris conscience de ça, ça m'a vraiment posé un problème. C'est-à-dire que j'avais du mal à démarrer le tracteur le matin. J'avais du mal à voir mes tunnels plastiques. Même si, attention, hein, en bio, on est vachement vertueux. On fait super gaffe à ça, hein, quand même. Hein. Et puis au moins, à la différence des conventionnels, on dégueulasse pas tout autour de nous. Donc c'est aussi vraiment important. Néanmoins, il y avait cette incohérence qui était là. Donc je commençais vraiment à avoir du mal. Et puis, quand on a du mal, comme ça, qu'on n'est pas à l'aise dans son boulot, ben, on a tendance à s'aigrir. Et la rencontre avec Maxime de Rostolan, qui a monté Ferme d'Avenir, a été pour moi vraiment un bain de jouvence. Parce que Max, il a un projet, voilà, il a un vrai projet de chercher des solutions pour des agricultures pour demain. Il m'a demandé de participer parce qu'il y avait un petit recadrage et un réalignement un peu à faire sur leur ferme expérimentale. Et pour moi, c'est un plaisir de le faire, vraiment. Moi, je pense qu'on est vraiment en train de se tromper, hein, avec Max et tous ensemble. Je pense qu'on va vraiment...
Il est en vacances, il en profite.
Ouais. Mais on se gourre vraiment. Je pense qu'on ne va pas y arriver.
Peut-être dire que le projet de Max, c'est quand même 25 000 fermes et 100 000 paysans dans 10 ans.
Ouais, voilà, mais il est fou, donc c'est bien.
Oui, mais il est jeune.
Ouais, mais c'est génial. Et du coup, je ne pense pas qu'on va y arriver, mais au moins on essaye, quoi. Et si on se trompe, eh ben, au moins on se trompe de bonne foi. J'aime pas qu'on reste dans l'erreur, comme on voit là avec l'agriculture conventionnelle, c'est des erreurs vénales, de mauvaise foi. C'est pas joli, quoi. Donc là, ça fait 150 ans que l'agriculture occidentale a pris une voie qui n'est pas la bonne et qu'elle accélère. Donc c'est pas nous qui, en 4 ans, 5 ans, allons rattraper 150 ans de pure démence. Par contre...
Non, mais vous faites votre part, Xavier.
Voilà, et ben c'est ça. On est fermement décidé à faire un petit bout du chemin. Et puis, nos enfants, ben, ils reprendront là où on s'est arrêté sur le chemin. Mais au moins, ils ne repartiront pas de zéro. Et puis après, c'est soi aussi. Le regard qu'on porte sur soi qui est aussi important. Et moi, j'ai envie de me dire, ben, j'y étais. Voilà, j'ai fait partie de ceux qui, à un moment, ont essayé. Bien sûr qu'on se trompe, bien sûr qu'il y a plein de difficultés, etc. Bien sûr qu'on a plein d'incohérences. Voilà, mais bon, nos incohérences font aussi partie de notre richesse aussi, à un moment. On ne va pas tout résoudre. De toute façon, il ne peut pas y avoir de solution miracle. Mais cette idée de s'inspirer de la permaculture... La permaculture, c'est que du bon sens, hein, finalement. Donc ça, c'est la critique qu'on fait en permanence à la permaculture, dire que c'est que du bon sens. Mais c'est une excellente critique, puisque oui, la permaculture, c'est que du bon sens. Et ça tombe bien, le bon sens, c'est ce qu'il y a de moins bien partagé en ce moment. Donc c'était très bien qu'à un moment, on remette un petit peu les choses en ligne. Et dans, pour ceux qui sont intéressés par le sujet, moi, je trouve que les paragraphes de Bill Mollison sur l'énergie, l'utilisation qu'on en fait de remettre l'énergie un petit peu à l'axe, c'est vraiment intéressant. C'est ce qu'ont fait les permaculteurs. Ils ont fait plein, ils ont une démarche super intéressante. On en a fait, à mon avis, à tort, une espèce de modèle qu'on voudrait commercial, ce pourquoi elle n'était pas faite du tout. Donc, à mon avis, c'est à tort, mais de toute façon, à un moment, il faut bien qu'on cherche, il faut bien qu'on s'inspire d'un existant. On ne peut pas tout inventer. Et donc là, en ce moment, avec Ferme d'Avenir, ben c'est ce qu'on essaye de faire, quoi, du mieux possible. Alors, en respectant les sols, en respectant l'environnement, etc., etc. Et puis aussi en respectant l'humain, c'est-à-dire en respectant les gens qui travaillent avec nous. Parce que la base, elle est aussi là, quand même. C'est aussi pour que ceux qui viennent... sur le lieu, soit découvrir, soit se former, soit être salarié, puisse vraiment trouver un épanouissement, quoi, aussi humain, tout simplement.
Peut-être nous dire en deux mots, parce que Ferme d'Avenir, en fait, c'est une micro-ferme expérimentale qui est en Touraine.
Oui, alors donc Ferme d'Avenir, donc les lieux, c'est à peu près 2 hectares d'excellentes terres au château de la Bourdésière. Le château de la Bourdésière, c'est le Conservatoire national de la tomate, très joli potager. Et j'en profite pour leur faire de la pub. Nicolas, le jardinier de la Bourdésière, est un excellent jardinier qui arrive à maintenir une collection d'à peu près 700 tomates différentes. Donc en maintenance, ça commence déjà à être assez technique. Et il est super intéressant, c'est super joli. Donc on est dans un bel écrin qui nous rajoute du coup des contraintes, hein, puisque monument historique, etc. Donc on ne fait pas exactement ce qu'on veut. Par contre, on a eu cette chance d'être accueillis, d'être dans un beau lieu, et un lieu qui soit en plus de ça lisible. Donc ça, c'est plutôt bien. L'expérimentation a commencé il y a 2 ou 3 ans. Là, pour l'instant, c'est... Alors, Maxime ne nous entend pas.
Non, mais on peut dire les vrais chiffres, on est entre nous.
Ouais, pour l'instant. Alors, l'idée d'origine, c'était de montrer que les fermes, les micro-fermes, déjà.
Comme le Bec et Loin, dont vous avez tous entendu parler.
Voilà, sont rentables économiquement. Alors.
Et que sur 700 ou 1000 mètres carrés, on arrive à faire vivre au moins une personne.
Voilà.
C'est le concept Bec et Loin validé avec François Léger de l'INRA.
Voilà. Nous, ce qu'on a constaté. Ce qu'on constate, c'est que quand on ne vit que des revenus de la vente de légumes, sans rien dégager de formation, de prix d'entrée, de visite, etc., non, ça ne fonctionne pas. Après, des exemples de petites surfaces maraîchères où on voit des maraîchers qui en vivent, moi je connais quelques exemples, j'en connais très peu. Je connais Olivier Durand, par exemple, à Nantes. On parlait de Nantes tout à l'heure. Olivier y arrive. Il est sur 5000 mètres carrés sous multi-chapelle vert. Et il est hyper technique. Et c'est du bio super intensif. Attention, c'est des variétés passionnantes et tout. Mais avant d'arriver à son niveau, c'est pas juste en sortant d'un BPREA qu'on va arriver à faire ça. Il est super bon, formé au Japon, etc. Il y a Patrick Maillet aussi, l'ancien chef de culture de la ferme de Sainte-Marthe, qui arrive, lui, donc 2 fois 5000 m², une année sur deux, sous multi-chapelle, pareil, peut mécaniser, Je ne sais pas si vous connaissez Patrick, mais c'est un furieux hein, quand même. Hein. C'est un sacré furieux.
Violent.
Oui, c'est un violent. Et c'est un peu un furieux. Et techniquement super bon. Et là, on est vraiment dans un, c'est pas, dans une notion très intensive du bio. Donc, on a quelques exemples comme ça. Le modèle que voulait déplacer, que voulait développer Max était différent. Il était sur du salariat, 35 heures par semaine, etc. Or, ça, pour l'instant, on constate que ça ne fonctionne pas. Mais c'est vachement intéressant, en fait.
Non, mais c'est en route. Il croit que ça, c'est possible. C'est vrai qu'en plus, les aléas climatiques de 2016 n'ont pas aidé à démontrer que le modèle peut marcher.
Et puis,
faire l'avocate de Maxime, hein, s'il n'est pas là.
Mais ouais, non, mais... en plus de ça, c'est... heureusement qu'il est là pour le faire, heureusement qu'on est là pour essayer, heureusement qu'on est là pour avancer, pour voir là où ça pêche. Et alors bravo pour ton initiative de faire toutes ces fermes d'apprentissage, parce que on se rend compte qu'il y a un énorme déficit de formation. Et on s'en est aperçu aussi, etc. Donc voilà. Et donc le boulot de Maxime, c'est aussi après de faire du lobbying auprès de l'éducation nationale pour faire évoluer les lycées agricoles, pour qu'il y ait quand même à un moment un minimum de réalisme, pour ne pas envoyer des gens au carton quand ils s'installent, etc. Après, c'est aussi de réfléchir sur comment on va réussir à rendre ces fermes viables sans bosser 70 heures par semaine dessus, comme moi j'ai fait, etc. Donc c'est ça qui est, moi c'est ça que je trouve passionnant. Le fait de ne pas y arriver du premier coup, encore une fois, il n'y a rien d'étonnant à ça. Ça fait plus de 100 ans qu'on se dirige dans le mur avec de l'élan. Donc, on ne va pas réussir très vite. Hein.
Peut-être en écho au champ des possibles, tu peux nous dire deux mots de la formation Pays-Culteurs, en fait, qui est aussi proposée dans le cadre du projet Ferme d'avenir.
Ouais. Je vais même pouvoir te dire trois mots, parce que j'ai compris depuis deux jours ce que c'était.
Ah, bah c'est bien.
Ouais, alors après, ça, c'est un truc de Max. Et ce qui est rigolo, c'est que même moi, si je pigeais pas vraiment ce que c'était, je sais pas si lui, Max, il avait fait vraiment le tour du projet aussi, mais ça y est, maintenant, c'est bien clair. Et de toute façon, on sentait qu'il y avait une super intuition. Et donc, un pays-culteur, en fait, c'est un acteur du territoire. Et ça, déjà, ça fait vachement chic à dire. Vous êtes acteur du territoire. Et ça veut dire que c'est tout ce qui va, toutes les professions qui vont être en lien directement avec une production propre, respectueuse, raisonnable. Donc, qu'est-ce que ça peut être un pays-culteur ? Ça peut être soit un acheteur de chez Casino. Là, pendant la formation pays-culteur, là, moi, j'ai participé à la restitution. Et donc, pour vous donner un peu le panel des gens hein, qui voulaient se former.
Il y avait une vingtaine de personnes, c'est ça, là ?
Voilà,
sur la première session.
Voilà. Et donc, à qui on transmet un petit peu les bases de ce que c'est que l'agroécologie, de ce que c'est que les contraintes de l'installation, etc. etc. Donc, pour déjà qu'ils sachent vraiment de quoi il s'agit, avec en plus, pour histoire de prendre l'air, des demi-journées passées sur le terrain à être dans l'action. Mais l'idée, c'est vraiment qu'ils aient une vision la plus large possible de ce que c'est qu'une agriculture à taille humaine, et puis encore une fois, qui bousille pas tout ce qu'il y a autour. Et donc ça allait de l'acheteur de chez Casino à deux jeunes garçons qui ont un projet de vie communautaire, mais vachement établi, vachement avancé.
Un oasis de vie. Hein,
ouais, c'est ça, voilà. Et en passant par quelqu'un qui avait un projet d'acheter un labo mobile pour faire de la transformation d'excédents. Enfin voilà, donc ça balaye très très large. L'idée, c'est vraiment tous ces gens qui peuvent faciliter à un moment soit la production, soit la commercialisation, soit la transformation. Et pour ça, ça sous-entend que pour être pays-culteur, il faut déjà avoir une vraie vision de ce que sont les métiers de l'agriculture. Ça ne veut pas dire être agriculteur soi-même, mais au moins déjà avoir une notion vraiment claire de ce que c'est les contraintes d'installation, contraintes d'emploi du temps, etc. Et puis après, d'être capable d'être médiateur soit entre plusieurs maraîchers. Donc on a des exemples en Bretagne où vous avez une personne qui va organiser les marchés tournants à la ferme, ce qui est un vrai boulot à plein temps, hein, là, et qui va être rétribué là-dessus. Voilà, Payiculteur, ça regroupe plein de professions différentes pour ceux qui, à un moment, ont envie d'être à la fois acteurs du territoire où ils sont et acteurs aussi d'une forme d'agriculture qu'ils veulent valoriser. Et là, tous les biais sont possibles.
Alors, je vais avoir très peu de temps pour mes questions, donc c'est pas très grave. Merci, Xavier. Moi, j'ai envie de vous questionner tous les trois sur un sujet qui est de dire, quelque part, vous êtes trois témoignages de ce qui est possible, qui sont des choses qui existent, des choses qui marchent, petite échelle, moyenne échelle, bientôt grande échelle. Dans quelle mesure, nous, citoyens, et on est tous concernés, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces modèles-là existent plus ? Quelle est la part, finalement ? Qu'est-ce qui fait que ces agricultures qui se développent, parce que des initiatives comme ça, il y en a un peu partout en France et dans le monde, on peut arriver à finalement basculer. Moi, j'adore entendre Marc Dufumier qui dit « mais il y a des millions de paysans qui font de l'agroécologie, beaucoup plus que des paysans qui font de l'agriculture conventionnelle. Oui. » L'agriculture intensive, c'est une minorité. Oui, mais on voit toujours ces champs cultivés aux États-Unis ou ailleurs. Voilà, donc on a la possibilité aujourd'hui de changer le monde. Qu'est-ce qui fait que nous, citoyens, voilà, quelle est notre part et qu'est-ce que vous avez envie de nous dire ? Et vous ne jetez pas tous dans la réponse. Hein.
Bah, pour des urbains, en fait, c'est vachement facile. C'est votre billet de 10 euros déjà, hein, pour commencer. Hein, c'est simple. Hein. C'est-à-dire qu'un billet de 10 euros dessine le monde que vous voulez voir demain émerger. Hein, donc, ça dépend à qui vous donnez vos sous, hein, pour qui vous encouragez. Alors, je vais citer le philosophe Coluche qui disait bah, « il suffirait de plus l'acheter pour plus que ça se vende ». Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est de plus acheter tout ça. Juste montrer qu'on n'en veut pas, qu'on reproche. Moi, je ne reproche pas aux gens qui en veulent de l'acheter. Hein. On n'est personne pour se prétendre être des modèles ou donner des leçons. Mais juste ceux qui ont ceux qui ont envie, bah, allez-y à fond, quoi. Voilà. Dessiner et assumer de dessiner vraiment le monde que vous voulez demain. C'est la première chose, c'est notre acte d'achat, clairement. Vous n'êtes jamais déçu par votre acte d'achat. Vous savez très bien qui vous donnez votre argent. Quand vous votez pour un politique, vous ne savez pas ce qu'il va faire après. Quand vous dépensez votre argent, vous savez tout de suite à qui il va. Voilà, tout simplement, hein, dans un premier temps.
Ouais, c'est très juste. Moi, j'ai fait... Ouais. Juste pour complémenter ça, moi j'ai fait, je crois, plus de 40 visites là récemment sur ma ferme. Et ce qui est troublant, c'est qu'on a énormément de personnes qui viennent du milieu urbain. En fait, les urbains sont les gens qui veulent qui veulent savoir ce qui se passe, qui veulent aller dans les fermes. Il y a plein de personnes en local qui ne savent pas ce que je fais. c'est fou, hein, mais c'est vrai.
En Ardèche, personne ne connaît Pierre Rabhi. Hein, juste pour
oui, mais je connais. On en parlait ensemble avec Pierre et il me disait, tu sais, de toute façon, dis-toi bien que c'est pas les gens du Larzac qui vont te faire bouger le truc. Et alors, ce qui est très rigolo et qui en fait, il y a plein de recoupements parce qu'en fait, c'est une très belle grande famille. On parlait de la ferme de Sainte-Marthe. Moi, Philippe Desbrosses est venu me voir au tout début quand c'était dur, parce que c'est pas facile tous les jours. Vraiment, on se bat pour nous, pour notre famille, pour nos enfants, pour vous. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, mais on n'a pas cette force pour vous tous. Hein, et votre intention et justement cet accompagnement-là, il est important. Et pour revenir là-dessus, moi, ce que j'ai avec Maxime de Rostelan, c'est qu'il a monté une plateforme qui s'appelle Bluebees. Et nous, on a un gros sécateur qui est financé par sa plateforme. Un sécateur de plus de 30 000 euros. Et en fait, quand on a présenté cette plateforme-là...
Peut-être dire deux mots de Bluebees, en fait, c'est à la fois une plateforme de dons et de financement.
Enfin, voilà. Qui est uniquement consacrée à
l'agroécologie ou à l'agriculture, voilà, c'est ça. Saine et...
Ouais, propre.
Ouais, donc ce gros sécateur, je vous jure, avec Emmanuel Payard, on a eu le plus grand mal à expliquer le projet. Pourquoi ?
Emmanuel dirige Bluebees, en fait.
Voilà.
Et avant, elle était comptable verte chez Nature et Découverte.
Parfait. Et en fait, ce qui est dans mon cas, alors c'est pas pour aller un peu plus loin, le projet Buxor, il n'est pas compris. Et la plupart des gens qui sortent de la visite, ils ont compris, mais quand vous lisez un texte ou une présentation, y a, ça part dans tous les sens. Et pourquoi ? Parce que c'est la vie. La vie, elle part dans tous les sens. Il y a plein d'aspects, et quand vous basez sur quelque chose qui est issu de la nature et que vous essayez de comprendre comment ça marche, les mécaniques, ce qu'on appelle les mécanismes d'aggradation des sols, de création de la vie, même dans la forêt de Bornéo, on ne sait pas comment ça fonctionne. On ne connaît pas tout. J'en parlais avec Francis Allais. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu, il était une forêt. Et il me disait, tu sais, il va te falloir toute ta vie et ça ne suffira pas pour comprendre une toute petite partie de ce que tu fais. Et par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est que ça marche. Et moi, je vous garantis, et plus ça va, ce qui marche, il faut aller avec. On s'aperçoit que finalement, c'est les premiers jets des bourguignons, c'est que lorsqu'on récolte de la broussaille et qu'on met 7 cm sur un hectare, on stocke 6 tonnes de carbone à l'hectare avec notre broya Buxor. D'accord ? Et pour produire 7 hectares, on a dépensé 695 grammes. Donc c'est quand même fantastique. On se dit, ben, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des machines qui crament du pétrole et qui, en fait, on est en énergie positive. Alors pourquoi pas le faire ? C'est les constats qu'on s'est dit. Eh ben oui, nous, on est fiers de cramer du pétrole parce que notre pétrole, il se retrouve quelque part dans vos sols. Donc il y a ce rapport-là, surtout de non-diabolisation et surtout, comment dire, d'essayer de vous pencher sur ces plateformes qui aident tant de beaux projets. Moi je sais que le sécateur on ne l'aurait pas hein, si vous n'étiez pas là, peut-être il y en a qui connaissent Bluebees, mais c'est énorme et il y a un échange, c'est-à-dire que les gens ils sont contents finalement de mettre leur argent dans Buxor et pas dans une banque et finalement voilà, on arrive à rembourser, on tire la langue mais on arrive à rembourser parce que nous on est en forme prêt. Parce que justement c'était pas compris, on ne pouvait pas rentrer dans la forme don, on savait pertinemment que les gens... comment dire, il y a un schéma qui est malsain et qui est dur à développer pour nous, c'est que oui, on doit faire du fric, oui, et il ne faut pas diaboliser ça. L'argent est comment dire, un échange, un fluide, il le faut pour des structures qui font du bien à l'environnement, à la planète et aux hommes. Il faut pas, c'est pas parce qu'on fait de l'agroécologie, c'est pas parce qu'on est dans un système extensif bio et tout qu'on peut pas en vivre convenablement et en plus qu'on n'a pas le droit de redonner cet argent à d'autres projets. Moi, j'ai bon espoir que Buxor soit une société qui puisse aider mais des milliers d'autres petits projets. Hein, c'est vraiment ça, ce sentiment-là de dire on peut arriver à créer le monde de demain et on peut se servir des outils actuels d'aujourd'hui pour le créer. Donc le pétrole en fait partie, l'argent en fait partie, toute la bonne volonté de toute la population qui a envie d'apporter ces 10 euros à un cochon élevé différemment et pas à soutenir Fleury Michon, c'est utile. Aider les structures d'achat...
On avait dit pas de marque, hein, quand même.
Ouais, pas de marque. Pardon.
Il n'y a pas le bip, là,
chouchon, voilà. Il n'y a pas que, hein, voilà. Il y en a plein d'autres. Aider des plateformes qui aident tellement, il y en a dans cette salle, pour ceux que ça intéresse, qui aident aussi à faire connaître... vraiment, donc je ne peux pas citer de nom, mais à faire connaître des petits producteurs qui font un boulot fantastique. Et voilà, il y a tout ça, en fait, cette force, et je reprendrai aussi le grand philosophe Coluche. En fait, la force est en vous. Hein.
Jean-Louis, quelle part nous pouvons avoir ?
Alors, nous, on a, dans notre coopérative, donc, on a à peu près 50%. Des porteurs de capitaux, puisque dans une coopérative, il y a un capital qui est constitué par la société civile, notamment au travers du réseau des AMAP, puisque à chaque fois qu'on accompagne quelqu'un qui va s'installer, on lui trouve son groupe de consommateurs, et nous, on a privilégié le réseau des AMAP, puisque c'est notre père, entre guillemets, qui a été à l'origine donc de la création de Champs des Possibles. On essaie de faire en sorte que les groupes de consommateurs soient particulièrement impliqués sur l'accompagnement de celui qui va s'installer et qu'il y ait une relation privilégiée qui se crée justement pour l'accompagner face à toutes les difficultés qu'il va rencontrer lors de son installation. Et ensuite, dans le développement de son activité. Et par ailleurs, donc, il y a les groupes de consommateurs et on a aussi des clubs d'investisseurs, on a des cigales ou des cagnottes solidaires, des groupes de citoyens qui constituent des cagnottes solidaires pour accompagner justement ces projets. C'est une autre forme aussi d'accompagnement. On travaille beaucoup justement. Pourquoi on a pris ce statut de SIC, c'est justement pour permettre aussi à des collectivités locales et publiques d'investir dans notre coopérative et d'être de vrais partenaires pour l'animation des territoires. Et actuellement, sur le territoire autour de la ferme de Toussac, donc où l'expérience a démarré, et aujourd'hui on est en plein développement de cet espace test, puisque en 2017, jusqu'à présent on n'avait que 2 hectares de maraîchage. En 2017, on va avoir 65 hectares de polyculture élevage avec une jeune fille qui s'installe en production de fromage de chèvre, un garçon qui va s'installer en production de volaille de chair, et on cherche un candidat actuellement pour être paysan boulanger. C'est-à-dire qu'on veut essayer de créer aussi un mini collectif, que les gens puissent s'entraider entre eux sur ce site, partager les travaux. Que ce soit au niveau social, que ce soit quelque chose de vivant et non pas installer des unités comme ça, un gars tout seul dans son coin, quoi. Et on essaye de développer cet esprit-là. Et pour ça, on a aussi besoin du soutien de la société civile. On a fait des travaux collectifs sur le site avec la participation d'un certain nombre de gens pour qu'ils se rendent compte du concret de notre métier et de ce que c'est que d'accompagner aussi des porteurs de projets.
Merci Jean-Louis. Alors Patrick, je ne sais pas si on a un micro, une question sur le micro ou pas le micro pour les questions de la salle. Je pense que Patrick va nous chercher un... Voilà, ça y est, le micro va arriver. Je vous propose de passer aux questions de la salle. Le plus simple, c'est plutôt des questions que des témoignages pour qu'on profite au maximum des intervenants qui sont venus plus ou moins loin, puisque aucun n'habite à Paris intramuros, hein, si on a bien compris. Voilà, ça y est, Patrick arrive avec son micro. Qui veut poser la première question qui est la plus facile ? Bon, s'il n'y en a pas, moi j'ai une autre question. J'ai envie que vous me disiez, vous nous racontiez. Je pense que ces nouvelles formes d'agriculture, quand on s'est vu au ministère de l'Agriculture, moi j'ai pas parlé d'agriculture, j'ai parlé des humains en fait, parce que je suis présidente d'une association qui s'appelle Terre et Humanisme, et je pense que la terre c'est quelque chose, mais l'humanisme c'est aussi autre chose, et les deux vont ensemble, c'est pour ça que l'agroécologie, mais la permaculture aussi, parce qu'on va pas faire, on est si peu nombreux à défendre tout ça qu'on est tous d'accord. Moi j'aimerais que vous témoigniez chacun sur l'aspect social en fait de ces nouvelles formes d'agriculture, parce que vous voyez arriver soit des paysans qui changent, soit des urbains qui viennent te visiter, soit des néo-ruraux. Enfin voilà, il y a tout un nouveau paysage. Et tu l'as dit toi-même, le jour où j'ai compris que le maraîchage, c'était ce qui allait m'épanouir dans la vie, même si après il y avait un chemin pour quel maraîchage, mais que vous puissiez témoigner de ces changements humains, en fait, que vous constatez chacun dans vos expériences.
Alors, il y a un changement qui est plaisant, c'est qui est à la fois plaisant, inquiétant et parfois un petit peu agaçant. Là, c'est tous les projets qu'on a totalement irréalistes dans un contexte économique, donc attention, irréaliste dans le contexte de l'horreur économique dans lequel on est plongé quand même. Donc on voit effectivement plein de jeunes arriver, moins jeunes aussi. D'ailleurs, à ce sujet-là, méfiez-vous pour le maraîchage quand même. Notre espérance de vie professionnelle n'est pas super longue. Les rotules ne sont pas du tout faites pour ça quand même.
On s'en passe. Donc jusqu'à quel âge on peut se reconvertir maraîcher ?
Tout dépend.
La moitié de la salle va sortir.
Ouais, tout dépend des activités passées en fait. C'est-à-dire que... J'ai eu moi des stagiaires qui arrivaient avec une quarantaine d'années bien passées et qui n'avaient jamais eu d'activité physique, qui avaient eu une profession sédentaire. Attention, le corps, pour faire le corps, une fois qu'on a passé 40 ans, ça commence à être voilà, ça commence à être plus difficile. Donc il faut aussi bien tenir compte de cette réalité. Ce sont des métiers qui sont physiquement vachement éprouvants quand même. Hein. Donc les maraîchers, en général, rien qu'au physique, vous les reconnaissez. Hein.
Donc ils vont mal dans leur corps, mais bien dans leur tête, en fait, c'est ça?
Ouais, ça dépend du temps, ça. Ça dépend. Non, c'est juste qu'il faut vraiment apprendre, c'est super important, hein. Il faut vraiment apprendre à choper les bonnes positions, vraiment à bien choisir les bons outils, etc. À savoir se soulager, s'organiser pour ça. Et malgré tout, avec tout ça, on sollicite beaucoup notre corps et on le sollicite de façon parfaitement anormale dans certaines positions. Voilà, vous faites un éclaircissage d'1,8 km de carotte. C'est pas exceptionnel hein, en ligne, hein, c'est pas exceptionnel. Bon, ben 1,8 km de carotte, les rotules, elles font maman à la fin. Hein, c'est, voilà. Et c'est normal. Donc, il ne faut pas découvrir ça à 40 ans. 40 ans passés, surtout quand avant on n'a pas fait autre chose. Bon, ça c'est une contrainte à laquelle bon on peut en reparler. Mais l'autre truc c'est moi ce qui m'étonne toujours un petit peu c'est que notre métier est simple. Hein. C'est honnêtement hein, notre métier est assez simple, mais il s'apprend. Et là, il y a beaucoup de projets, de gens qui font, de jeunes et de moins jeunes, hein, qui font qui un stage à tel endroit, qui une petite formation à tel autre, voire un BPREA uniquement, comme si un brevet comme ça pouvait avoir le moindre rapport avec l'agriculture.
Comme si on apprenait des choses à l'école. Enfin.
Alors. Je sens la pique. Hein.
C'est pour plaisanter.
Ouais, non. Alors oui, bah, du coup, je vais me permettre une réflexion vachement sévère. Je vais m'autoriser parce que j'en ai souffert. Donc, à quoi on reconnaît un enseignant en France? Au fait qu'il n'a jamais quitté l'école. Et ça, c'est un vrai problème. Voilà. Donc, effectivement, enseignent en France des gens qui n'ont pas quitté l'école. Dans les lycées techniques, c'est un petit peu différent. Ce sont des gens qui ont quitté l'école pour aller bosser un petit peu professionnellement et qui sont empressés d'y retourner. Donc voilà, après, il ne faut pas trop non plus être surpris qu'il y ait un vrai hiatus entre ce qu'on va apprendre à l'école, dans un lycée, etc., et la réalité de terrain. Qu'il y ait un hiatus, ce n'est pas grave, à partir du moment où voilà, il y aura des projets comme le tien, d'accompagnement, etc. Là où c'est embêtant, c'est quand on maintient dans le leurre et quand on dit, voilà, vous avez le BPREA, ben voilà, allez-y, empruntez des ronds, vous pouvez, on vous donne la DJA et puis installez-vous.
C'est quoi la DJA ?
Alors, la DJA, c'est la dotation jeune agriculteur, donc ça correspond à une somme d'argent, donc moi j'ai pas voulu hein, tout ça, parce que tiens, un des rares trucs que j'ai retenu de l'école, c'est le louer le chien de La Fontaine. Vous savez, ce loup jaloux du beau chien là, qui est tout gras, et le chien l'invite à venir vivre avec lui, du coup. Et quand le loup va suivre le chien, il se rend compte que le chien, il a la trace du collier, hein, par contre. Et pour moi, toutes les subventions, c'est ça. C'est la trace du collier. Mmh. Donc un collier, c'est fait pour mettre une laisse et tirer dessus quand il y a besoin. Donc j'ai toujours refusé.
C'est la cravate de Pierre Rabhi.
Voilà, ouais, c'est ça. C'est ça. Mmh. J'ai toujours refusé ce système-là. Voilà, après. On a un vrai déficit de transmission en France. On est persuadé que l'écrit, et j'écris des bouquins importants, hein, c'est pour ça que j'en connais peut-être plus particulièrement la limite, on a l'impression que l'écrit va permettre de tout compenser, etc. On ne transmet qu'essentiellement comme ça. Moi, j'ai la chance d'avoir un maître, voilà, il a 72 ans, il s'appelle Jacques, c'est mon papy d'adoption. Et voilà, et lui, la permaculture, il ne connaît pas le même mot, même pas le mot, mais voilà, il fait de la permaculture, lui, depuis qu'il est né, quoi. Et donc, le savoir de ces trésors vivants, il est incomparable avec tout ce que vous allez pouvoir apprendre pour le BPREA, etc. Donc, c'est pour ça, les formations que tu proposes, l'accompagnement, ça, c'est super, c'est vraiment important.
Bon, Xavier, est-ce que les gens, ils ont le sourire quand ils repartent de chez Ferme d'Avenir ou pas?
Sinon, ce ne serait pas la peine qu'ils viennent. Voilà. Après,
c'était ma question.
Non, c'est ça. Mais de toute façon, après, il y en a plein qui sont confortés. Voilà, dans l'idée, ouais, bah c'est bien ça que je veux faire. Voilà, ça les conforte. D'autres qui se rendent compte que, mais comme le cas que tu as eu, que leur projet en fait était flou, correspondaient pas, en fait, ils n'avaient pas une image claire, précise de ce qu'était cette profession, et donc qui s'orientent vers autre chose. Il y a un petit peu de tout, et voilà. L'idée, par contre, c'est de ne pas mentir. Voilà. Après, d'être super clair sur notre position. Déjà, si je suis là-bas, c'est que je suis positif, clairement. Sinon c'est pas, même pas la peine d'y être, donc voilà, et c'est parce que j'aime ça, parce que c'est mon métier. Après j'ai pas envie de voir des gens aller au carton par déficit de formation, c'est ils clair. Laisser des ronds, des plumes, etc.
Nicolas, les 40 visiteurs,
Je crois qu'en 2016 on en a eu plus de 500. Donc ça fait du monde. Ce qui est intéressant, c'est que moi j'étais dans un circuit très particulier de la haute gastronomie avec des louanges et on va dire des félicitations que des fois je trouvais un petit peu disproportionnées. Là, je me retrouve sur la ferme avec les pieds dans la terre ou sous les bois, avec des gens qui posent des questions d'avenir sur leurs enfants, qui viennent souvent avec des jeunes enfants et qui regardent ces machines d'un œil un petit peu comme s'ils regardaient un avatar. C'est assez impressionnant. Si Noé vous fait une démonstration, y a un rapport irréel entre la puissance de cette machine, le monsieur qui le conduit, et la facilité, à la fois la difficulté. C'est-à-dire que vous coupez rapidement quelque chose, vous le broyez, mais ça paraît qu'on le voit de loin, puis après on se dit non mais quand même ça doit être dur de faire ça. Et les gens, en fait, il y a un échange qui est très intéressant. Il y a toujours ces questions récurrentes de la gestion de la broussaille, de comment ça va se passer dans le futur et tout. Ils ont tous ce sentiment là et puis je parlerai d'un petit point qui moi m'avait interloqué avec une visite de l'ONF et des gros forestiers industriels, des mecs qui en fait sont dans un schéma très très dur. Ils investissent dans des machines qui coûtent encore plus cher que les nôtres, et Dieu sait que les nôtres sont chères, et qui ils sont obligés de rentabiliser à H23. Donc H23, ça veut dire que la machine tourne 23 heures par jour et juste une heure pour faire les pleins, et changer de chauffeur s'il faut changer, parce qu'il y en a qui dorment au volant. Non, et ces gens-là, en fait, ils savent pas ce qu'ils font. Donc on parlait tout à l'heure des répercussions. Pensez aussi au mobilier, au bois. On ne pourra pas tous se chauffer au bois, ça faut arrêter d'y penser, c'est pas envisageable. Quand vous brûlez une bûche, vous rentrez dans des cycles minéraux de plusieurs, on dit autour de 100 000 ans. Hein, et les cendres d'une bûche, c'est pas vrai, ça rentre pas dans le cycle biologique tout de suite. Et il va falloir un petit peu sortir de cette utopie des granulés, des poêles à bois et compagnie. On l'a déjà fait, hein, si vous voulez voir Paris au XVIIIe siècle, il y avait une autre pollution. Hein.
Et donc, tu nous proposes quoi alors pour se chauffer ?
Et moi, je vous propose la broussaille. Ah, ça vous fait rire.
Alors moi, j'habite en forêt de Rambouillet, ça va bien se passer, mais alors ceux qui habitent à Paris 15e, je suis pas sûr qu'ils vont
arriver à se chauffer. Non, en fait, la mutualisation du réseau de chaleur de la broussaille, il est très envisageable. On déplace des fois de la matière pour rien, il y a souvent des camions qui repartent à vide. On a fait des inventions qui sont géniales, qui s'appellent le fond mouvant, qui en fait a un camion qui fait tout. Il y en a marre de ces camions spécifiques. Hein. Moi, je suis pour les machines qui font le maximum de choses en une version. Et ces camions, en fait, ils permettent de descendre des palettes et de remonter de la broussaille. Cette broussaille, elle va permettre de chauffer des habitations, des maisons locales. Et puis après, elle va agrader vos jardins, vos toits, vos maraîchers qui cherchent à s'installer. Il y a tout un réseau qui est envisageable à partir de cette broussaille. Un tiers de la broussaille française. Il y a 44 ans, il y avait beaucoup moins de broussailles qu'avant, mais c'est Henri Stellet de l'INRA avec Jean Pin qui ont fait ça il y a 44 ans. Un tiers de la broussaille française rend autonome tous les foyers français en chaleur. Tous les foyers, vous supprimez 3 centrales nucléaires qui partent directement pour votre chauffage et vous avez je ne sais pas combien de charbon et de pétrole qui n'est pas cramé. Donc maintenant, les solutions, on les a. Ce qui se passe, c'est que en fait, on a l'impression que ouais, celle-là, on la garde au cas où, parce que... Ouais, non, attends. Ouais, combien je l'ai, le pétrole, là ? Attends, le charbon ? Ouais. Oh putain, on peut se faire 200 000, là, sur un pagou. Ouais, non, du charbon. Donc il y a ce paramètre-là, c'est que l'argent est maître de tout, et en fait, on va aller chercher la rentabilité, et ce trading high fréquence, hein, ce système financier qui va prouver ses faiblesses prochainement, en fait, dans mon cas, je me suis installé en 2007, en 2008 et 2009, mes céréales ont doublé. Je me suis installé à 243 euros tonnes et je suis à 589 actuellement. Vous vous rendez compte? Faites ça avec une société classique d'agroalimentaire ou autre chose, n'importe quoi, quelqu'un qui vend des ordinateurs, il ne peut pas s'en sortir. Et nous, on nous demande, ah si, si, démerde-toi, hein. Non, non, mais les cochons, ils vont sucer les cailloux, ça ira bien. Et en fait, il y a vraiment on se sent seul au monde. Et pour revenir sur cette question sociale, ben, ça fait de l'oxygène, ça fait du bien, parce qu'on est tous là, on est sur le Larzac, hein, on en parlait tout à l'heure, 6500 hectares, 211 habitants. Alors, je ne sais pas par rapport à quelqu'un qui vit à Paris s'il peut se rendre compte de ce que c'est. Donc, 6500 terrains de football, on est 211 dessus. Ça vous va?
Voilà. Donc, de terrain tous les jours.
Et donc, dans ce rapport-là, bah, on se connaît, on se côtoie et tout, mais finalement, y a un réseau social qui est fantastique sur l'Arzac, et puis il y a énormément d'échanges, et puis voilà, c'est quand même José pas loin, il y a plein de choses qui se passent, il y a des grands mouvements, et ce qui est génial, c'est que en fait, ça bouge, ça discute, ça navigue, ça réfléchit, ça se pose des questions. Des projets comme Buxor, je suis désolé, en forêt de Rambouillet, j'y crois pas du tout. Il n'aurait pas fait les 3 premiers mois. Et sur le Larzac, nous, on tient, on trouve de l'argent, on se débrouille, on racle tous les fonds de tiroir. Et on y croit tellement qu'à force, les gens disent, bon, c'est pas possible, ces jeunes, ils y croient tellement que c'est d'avoir un fond de vrai, quoi. Donc, c'est fantastique. Le neveu de Jean-Pin, Étienne Bonvalet, qui nous construit un nouveau broyeur hybride télécommandé, on est les premiers à faire ça au monde, et ben, en fait, il dit... Moi je crois parce que vous êtes tellement teigneux que ça peut que marcher. Donc j'ai retenu ça, si j'ai une leçon de mon parcours militaire, c'est que là où il y a de la volonté, il y a un chemin.
There is a way. Patrick a toujours le micro en main, hein, pour ceux qui voudraient...
Bonjour, merci d'être là déjà. Et moi je m'intéresse aux semences et en fait je me demande si dans toutes ces nouvelles formes d'agriculture, on reste quand même avec des grands semenciers qui monopolisent les marchés des semences, est-ce que dans ces nouvelles formes que vous faites, est-ce qu'on peut s'affranchir de ces grands semenciers et quelles sont les solutions qu'on a à ce niveau-là?
Alors oui, ça vous pouvez vous en affranchir très très facilement. Donc il y a toujours des tentatives, etc. Ils ont toujours des... Bon, c'est des voyous, hein, donc on sait comment ils s'y prennent. Néanmoins, c'est un peu ce qui se passe en Bretagne, c'est-à-dire que comme il y a beaucoup de conventionnels furieux, c'est là que vous trouvez le maximum de bio. Pour les semences, c'est pareil. La réaction, la réaction de Biogerme, par exemple, qui a fait cette superbe... Moi, j'adore leur catalogue. Eh bien, Biogerme, il ne fournit pas pour tout le monde tellement... Tellement il y a de demandes de semences, etc. Germinance marche très bien, semaille, ça cartonne, etc. Donc ça veut dire qu'il y a de la place aussi pour de futurs producteurs un peu alternatifs comme ça. Et puis moi je pense que on fait, alors là je vais prêcher pour ma paroisse, mais sur Ferme d'Avenir, c'est quelque chose qu'on développe, les techniques et les méthodes d'autoproduction de semences, puisque depuis des années on nous explique que quand on fait ses graines ça dégénère, etc. Alors que non, quand on fait soi-même ses graines, c'est pas que ça dégénère, c'est que ça régénère, c'est pas pareil. Donc on apprend, et moi j'adore faire ça, on apprend aussi bien pour des professionnels, futurs professionnels, et surtout pour des particuliers, parce que moi, pour moi, la biodiversité des plantes alimentaires, elle est vivante dans les jardins. On apprend des règles de base, il y en a quelques-unes, c'est pas super compliqué, ça s'apprend, c'est pas hyper complexe, pour soi-même produire une partie de ces semences.
Moi, je voudrais quand même parler du réseau des semences paysannes, parce que t'en parles pas, et qui est pour moi un réseau extraordinaire de paysans qui continuent à produire leurs semences, donc ils se mettent en réseau. Il y en a des dizaines, voire des centaines en France. Il y a des maisons de la semence paysanne, donc il y a vraiment tout un collectif. J'organise un débat le 22, je vous en parlerai tout à l'heure, le 22 au soir, à la maison du crowdfunding. C'est le début de cette année. Il y a un truc un peu original, c'est que tout le monde essaye de faire sortir le salon de l'agriculture du salon de l'agriculture. Quand je dis tout le monde, c'est les un peu actifs comme nous, parce que Porte de Versailles, ça va, mais voilà. Et donc, le 25, il y a une très belle journée organisée par l'Alimentation Générale qui a lieu, je crois, au Carreau du Temple, où il y a des conférences avec Maxime qui sera là avec des gens extraordinaires. Donc les semences, 22 février, la journée sur l'alimentation, le 25 février. Donc regardez, il se passe plein de choses. Moi, j'organise plein de débats sur les semences. C'est l'enjeu d'aujourd'hui, d'hier et de maintenant. Voilà. Il y a aussi un projet qui s'appelle Femmes semencières, si vous voulez regarder sur Internet, qui a été lancé par Pierre Rabhi, qui sont des femmes un peu partout dans le monde. Parce qu'en fait, qui mieux que la femme qui s'est donné la vie peut maintenir la vie. Donc il y a un réseau qui s'appelle les femmes semencières, que ce soit en Inde, en Amérique du Sud, là moi j'étais au Maroc il n'y a pas très longtemps, où ces femmes, ben voilà, elles préservent les semences avec des banques de semences, on a bien entendu Vandana Shiva, voilà. Une autre question ? Non mais c'est... Devant, Angèle. Angèle, ton amie d'Evreux.
Bonsoir, merci. Moi, je voulais revenir, vous poser une question, monsieur Colas, je sais pas comment on dit, par rapport aux gens que vous formez, par rapport au statut, les conditions, enfin, c'est peut-être moi qui n'ai pas très bien compris le concept, mais qui vient être formé chez vous? Est-ce que c'est des gens qui sont déjà installés? C'est des gens qui veulent s'installer? C'est des étudiants? C'est des... Et les conditions d'accès? Et est-ce que, du coup, ils ont... Enfin, financièrement parlant, est-ce qu'ils ont déjà... Enfin, j'ai pas trop...
Je vais reprendre à la base.
Merci.
Est-ce qu'il y a des femmes qui viennent?
Il y a des femmes. Oui. Les gens qui viennent chez nous, d'abord, on leur demande d'avoir fait déjà un parcours de formation pour bien construire leur projet. On leur demande d'avoir un minimum, d'être passé par le BPREA. Alors, je sais que ça, c'est le BPREA, disons que c'est, on veut qu'ils aient quand même un certain nombre de bases théoriques agricoles. Même si ce n'est pas parfait, au moins que sur les bases théoriques, ils aient déjà quand même un certain nombre de bases. Alors, ce n'est pas obligé qu'ils passent par celle-là. Hein, ils peuvent, on a des fois des ingénieurs qui viennent chez nous, hein, qui ont déjà un très haut niveau. Ils sont... leur idée c'est de monter, ils ne sont pas installés bien sûr, parce que leur idée c'est de s'installer en agriculture, souvent en maraîchage, mais aussi dans d'autres secteurs. Et donc leur projet c'est de trouver un endroit pour s'installer et de créer leur propre entreprise, de créer leur propre jardin, leur propre ferme. Donc la plupart du temps ils sont au chômage. Parce que soit ils ont fait une rupture conventionnelle, ils avaient un autre métier avant, ils ont fait une rupture, ils sont au chômage. Il ne faut pas qu'ils aillent... Enfin, il ne faut pas. On en a accompagné qui sont arrivés sans rien. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on leur trouve un moyen au travers de contrats aidés, mais qui est une déviance de notre système. Notre système, il est basé sur le contrat d'appui au projet d'entreprise, CAP, ça s'appelle. En termes social, le CAP est reconnu aujourd'hui par à la fois la Sécurité sociale pour les métiers autres qu'agricoles et par la MSA pour l'agriculture. Donc, ils ont un statut CAP, ils sont ni salariés ni entrepreneurs. Ils sont entrepreneurs à l'essai. Donc, ils sont en prévision de construire leur entreprise. Alors, donc, s'ils ont la chance d'avoir des indemnités chômage, ça leur permet d'avoir une rémunération de base pour ne pas être complètement à la rue. Après, dans notre système, il y a une seule entité juridique économique, exploitation agricole, avec un numéro SIRET, un numéro TVA, qui est les champs des possibles, la structure base. Dans la comptabilité, dans notre comptabilité, chacun entrepreneur qui rentre chez nous a sa comptabilité analytique. C'est-à-dire que toutes ses charges sont répertoriées, tous ses produits sont répertoriés. À la fin de l'année, on fait les comptes et il peut bénéficier du produit de son activité. Alors, on essaie de faire en sorte que ce produit soit positif. La plupart du temps, c'est le cas. Mais ça demande donc à ce futur entrepreneur d'être très prudent sur ses charges, de ne pas dépenser à tout va. Alors, nous, on est là aussi pour veiller au grain parce qu'on laisse... C'est-à-dire, c'est nous qui tenons le carnet de chèques. Donc... ils ont une certaine liberté d'acheter des choses du quotidien, d'acheter un outil, un petit outil ou je ne sais quoi, et qu'ils font remonter la facture et ensuite nous on le rentre dans la comptabilité, on leur rembourse en frais. Mais je veux dire, ils n'ont pas carte blanche pour acheter un tracteur, par exemple, parce que s'ils commencent de dépenser trop d'argent tout de suite, ça ne va pas le faire. Donc voilà, le statut, il est cadré comme ça. Il y a un accompagnement économique, c'est-à-dire qu'il y a aussi des formations à l'économie, à la gestion, à la comptabilité. Et donc, on est depuis cette année, on a changé notre système comptable pour avoir quelque chose d'encore plus fin au niveau de l'analytique et dans lequel chacun va pouvoir rentrer ses charges. C'est-à-dire qu'il y a un logiciel qui s'appelle l'outil, qui est développé par les coopératives d'activité et d'emploi et par l'Union nationale des SCOP, et qui permet donc à chacun d'accéder à sa comptabilité en temps réel et de voir où est-ce qu'il en est dans ses résultats. Alors c'est toujours relatif parce que dans une comptabilité, vous pouvez savoir toutes vos charges, vous ne savez pas toujours tous vos revenus. Et puis il y a des choses qui sont un peu compliquées à calculer, notamment les charges sociales, tout ça. Bon, c'est des choses qui sont calculables, mais qu'on ne fait pas forcément au jour le jour. Donc au jour le jour, ils n'ont pas forcément le résultat comptable exact, mais ils ont déjà un aperçu au moins de leurs charges et de leurs produits. Quelle question il y avait encore? C'est bon. J'ai répondu à peu près. Oui.
Bonsoir et merci pour vos témoignages. Alors moi j'ai peut-être une question un peu naïve, mais vous parlez beaucoup d'initiatives personnelles et j'ai l'impression que tout s'est fait en collectif à l'extérieur de l'école, pour beaucoup. Mais concrètement, alors je ne sais pas ce que c'est que le BPREA, c'est ça, mais concrètement qu'est-ce qu'on apprend à l'école d'agriculture pour être si obligé de faire une démarche personnelle comme les vôtres? Et est-ce qu'on parle de permaculture, de biodynamie ou autre, je ne sais pas, par exemple?
Pas partout.
Alors,
et j'ai une deuxième question concernant paysculteur. Il faut avoir quoi comme profil et comme parcours pour faire ce genre de métier? Voilà.
D'accord. Merci. Alors BPREA, brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. C'est un terme très codifié qui vous donne la capacité théorique. À la fois, donc il y a des cours à la fois de gestion, d'agronomie, il y a un certain nombre de matières générales et après il y a des matières purement agricoles avec, pour ceux qui le souhaitent, des spécialisations en élevage caprin, en élevage ovin, en élevage bovin, en fabrication de fromage. Et après, donc, ceux qui font un BPREA dans leur secteur, je veux dire, par exemple à Brie-Comte-Robert ou à Saint-Germain-en-Laye pour l'Île-de-France, s'ils veulent faire une spécialisation caprine, ils vont aller dans l'Ardèche, je crois. Je crois que c'est un lycée de l'Ardèche qui l'assure. Voilà. Donc, ils vont être obligés de faire 15 jours de spécialisation dans un autre CFPPA, Centre de Formation Professionnelle Agricole.
Mais si on veut s'installer comme exploitant ou agriculteur, voilà.
Si on veut demander les aides, entre autres, si on veut demander les aides à l'installation, on doit présenter un diplôme minimum qui est le BPREA. Après, si on a un brevet de technicien supérieur, ingénieur, c'est pas nécessaire. Mais le BPREA, c'est le minimum requis pour pouvoir prétendre demander les aides à l'installation en agriculture, qui sont d'une part la DGA dont on parlait tout à l'heure, et des prêts bonifiés à l'agriculture. Et puis après, il y a un certain nombre d'aides à l'installation en fonction des départements qui peuvent être liés à ça. Il y a des remises de cotisations sociales par les organismes sociaux la première année, la deuxième année. Enfin, il y a un certain nombre d'aides de ce type.
Juste ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, à la question de est-ce qu'on enseigne la permaculture, la biodynamie, l'agroécologie, etc., donc il y a un ministre de l'Agriculture qui s'appelle Stéphane Le Foll, qui depuis quelques années parle beaucoup d'agroécologie. C'est l'agroécologie avec le trait d'union, vous savez, au milieu entre agro et écologie. Nous, on parle plutôt de l'agroécologie en un seul mot, voilà, ça depuis toujours, celle qui a été pratiquée depuis tout le temps. Aujourd'hui, les enseignants du milieu agricole, enfin, moi, l'expérience en tant que terre humanisme, sont démunis finalement face à cette nouvelle politique depuis 3 ans en disant mais en fait c'est quoi, ça commence où, etc. Nous en Rhône-Alpes par exemple, on a été contacté par la DRAF, donc la DRAF c'est en gros le ministère de l'Agriculture, nous disant est-ce que vous pouvez former nos enseignants à l'agroécologie. vous, Terre-Humanisme, petite association, Nain de Jardin en Ardèche, voilà. Et donc on s'est retrouvés avec des cadres de ces écoles-là qui passaient une demi-journée avec nous en théorique et surtout qui venaient visiter des paysans en agroécologie, qui vivaient de leur activité, qui avaient le sourire, qui étaient heureux et donc qui passaient trois demi-journées comme ça avec nous. Et à la fin des deux jours, c'était mais waouh, enfin, c'était voilà. Donc il y a des lycées agricoles, il y a des établissements où on parle un petit peu. Mais un, parce que certaines générations demandent, alors pas forcément les enfants des agriculteurs conventionnels, qui n'ont pas forcément fait ce changement-là, mais il y a d'autres qui font le choix de ces études-là et qui questionnent, parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on n'en parle pas, c'est pas possible. Ou alors il faut vraiment vivre, c'est même pas dans le Larzac, c'est vivre très très éloigné. Donc voilà, petit à petit, et puis c'est vrai, comme le disait Xavier, il y a de plus en plus de formations aujourd'hui qui sont accessibles, accessible au grand public en fait, pas qu'à des personnes qui sont professionnelles de l'agriculture.
Moi j'aimerais juste parler de quelque chose qui ressemble à la laisse. Donc moi je suis BPREA, installation en JIA, je suis la plus grosse dotation qui a jamais été donnée en JIA, 44
JIA 000... c'est jeune agriculteur, jeune agriculteur je crois, mais je suis pas sûr.
J'ai eu 44 000 euros, c'est considérable, je sais pas s'il y en a qui ont l'habitude de voir des DJA, mais j'ai eu une énorme DJA parce que j'étais le seul dans les roues à faire du cochon extensif et ça leur plaisait, et surtout il y avait une histoire de réservoir génétique. Donc j'ai bien défendu mon truc, j'ai eu cette subvention, elle m'a réellement aidé. Donc on va dire, je comprends tout à fait ton positionnement, mais dans mon truc de militaire en refonte, hein, pour
en
retrouver,
reconversion.
Ça a été positif. Et après, j'irai sur un autre point qu'il va falloir évoquer, qui sont les primes agricoles. Dans mon schéma, c'est 8% mon chiffre d'affaires. C'est-à-dire que moi, les primes, c'est zéro. Pourquoi ? Parce que le cochon, ça broute pas, ça n'existe pas. Donc j'ai décidé de mettre des ovins parce que j'y croyais, pas pour avoir des primes. Et d'un coup, je me suis retrouvé avec 25 000 euros de primes. C'est quand même fou, ça. Parce que le cochon, ça n'existe pas. À Bruxelles, un cochon, c'est sur le béton. Ça broute pas. Ils m'ont dit ça à la DRAF, donc la Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt, quand je lui ai dit, mais pourquoi il y en a plein qui ont des primes, ils ont même des chevaux de course, ils ont des primes. Pourquoi moi, j'ai rien ? Mais vous faites quoi ? Du porcin ? Ah oui, mais non. Mais pourquoi non ? Parce que non. J'ai dit, mais c'est quoi le rapport ? Il faut que ça broute. J'y voulais venir voir mes truies. Mais quoi ? Mais elle broute toute la journée. Ah bon ? Ah mais non, mais nous non, ça broute pas un cochon. Donc vous voyez, c'est ce genre d'ineptie, il y en a de partout. Et c'est, je vous jure, en tant que jeune agriculteur, vous tombez des nues. Moi, les réunions avec les jeunes agriculteurs, j'en ai fait une seule. J'ai cru que j'allais tous les emplâtrer. Il parlait de nombre d'unités de pesticides et de merde qu'ils mettaient dans les vignes, parce qu'il n'y a que des vignerons autour. Et il voulait installer quelqu'un où le père était en faillite, sur le même schéma. Et j'ai dit, mais il faudrait peut-être se poser la question si ça vaut le coup, quoi. J'ai posé cette question-là, j'ai failli me faire lapider. Et en fait, je me suis dit, oula, je ne sais pas où je suis, mais j'ai posé la mauvaise question. Est-ce qu'on remet en cause un système ? Surtout pas. On refait les mêmes conneries qu'avant. Ça, c'est ça. Et ce qui est important et ce que je garde en tête sur ce genre d'approche, c'est que là, les primes, ça bloque toutes les décisions du monde agricole. C'est une vraie chienlit, c'est une vraie merde et il faut qu'on en sorte. Moi, je suis ravi que la PAC diminue et que les paysans deviennent maîtres, décisionnaires. Enfin, c'est fantastique quand même de se dire « Attends, au fait, combien t'as de quotas, toi ?» Ah oui, moi j'ai 35 000 quotas, 35 000, ah ouais putain, tu vas pouvoir les céder. Il y a des trucs qui se cèdent complètement virtuels, les DPH.
Les quotas de lait, les quotas de production finalement.
De lien au sol, attendez, des trucs fous. Moi j'exploite une exploitation où il y a eu avant quelqu'un qui faisait du bovin. Et en fait il est parti avec ce qu'on appelle les DPU, maintenant ça s'appelle DPH, ils changent les noms tout le temps, comme ça ils ont l'impression de faire quelque chose. Et en fait, je dis, bon, j'ai pas de prime. Et je dis, mais quand même, y en a, ils ont des primes juste parce qu'ils sont sur un tel et tel terrain. Ah oui, mais vous, le paysan d'avant, il est parti avec. Et comment ça, il est parti avec ? Eh bien oui, il ne vous les a pas cédés, il est parti avec. Mais comment ça ? Eh bien, c'est à son nom, quoi. Oui, mais c'est mes terres. Ah oui, c'est vos terres, hein, c'est sur vos parcelles. Oui, mais attendez, c'est mes parcelles, mais il est parti avec. Oui. Alors, attendez, expliquez-moi et tout. Ah non, mais monsieur, asseyez-vous, ça va être long. Et donc là, on m'a expliqué le concept, et je faisais le benet volontairement pour leur montrer la connerie humaine qu'ils sont capables de pondre à Bruxelles. C'est vraiment, en fait, ils se mettent tous ensemble. Je ne sais pas s'ils prennent des psychotropes ou des trucs. Mais
ils s'entraînent beaucoup.
Ah, ils s'entraînent, hein, c'est fantastique. Et ils se disent, tiens, quelle
connerie. C'est des coureurs de fond.
Quelle connerie on va pouvoir pondre pour faire chier les paysans, quoi. Et là, je suis désolé, mais les primes, c'est le système pour lequel il ne faut plus voter. Moi, uniquement les élections européennes, il faut vraiment regarder ça en tête. Le truc le plus important, c'est de regarder la PAC. Parce que ça a une incidence énorme et c'est énormément d'argent. J'ai appris que le prince de Monaco avait plusieurs millions d'euros par an parce qu'il a juste quelques terres à son nom. Et qu'à côté, il y a des paysans qui crèvent de faim. Et la reine d'Angleterre aussi. Et des paysans qui crèvent de faim. Il y en a qui emplâtrent 2,5 millions d'euros en début d'année. Ils n'ont même pas semé. Donc, attendez, il y a quand même une connerie là dans l'énoncé, non ? Enfin, c'est peut-être moi, je suis peut-être... Voilà. Donc, vraiment...
Faut que tu repartes à l'école, je crois.
Cette histoire de Pâques, là, et en plus, ils vont mettre des noms pour justement pas comprendre. Et alors, ça, ce qui est fantastique, c'est que vous avez le technicien agricole qui dit « Ta déclaration, mais tu vas pas comprendre, il vaut mieux que je te la fasse. Bon, je vais te facturer ça, 10% de tes primes. Oui, mais moi, j'ai zéro. Ah, t'as zéro, toi ? Oui. Ah, oui, mais on va mettre des moutons, comme ça, t'auras. » Et en fait, tu me redonnes 10%, mais je t'explique pas ce qu'on fait. Hein. Tu me donnes tous tes codes et tout, je te dis surtout pas ce qu'on fait avec. Moi, je vais gérer tout ça. Et en fait, ils ont ce monopole, et ils annihilisent, en fait, ils les rendent, comment on pourrait dire, non responsables de leur action de production. C'est-à-dire qu'ils ne savent même plus. Ah oui, alors ils reçoivent des papiers. Ah, il faut débroussailler à tel endroit, mais moi, je ne sais pas débroussailler. Ah ben tu te débrouilles, mais sinon on ne le fait pas, parce que si personne ne le fait et que tout le monde est contrôlé, ben personne n'aura de problème. Et nous en fait on gêne parce qu'on sait débroussailler, on sait ouvrir les milieux quand c'est inaccessible, et alors du coup les MAE, donc les mesures agro-environnementales, ah ben merde, il y a une société qui sait débroussailler. Ah ben non, ben ça ne va plus marcher notre système, parce que tous ceux qui ont pris 11 000 euros par an depuis 10 ans, il va falloir qu'ils remboursent. Si on prouve qu'une société sait le faire à un prix abordable, ça ne va pas. Donc vous voyez, c'est ce genre de conneries là, de primes, ça c'est vraiment, ça vous sort de... Tant que vous n'êtes pas dedans, vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est.
Donc on marche sur la tête. Et alors, c'est payiculteur la deuxième question, Xavier ?
Oui, tu demandais quel est le profil. Tous les profils sont bons à partir du moment où on est en mesure d'inventer aussi son propre métier. C'est-à-dire vraiment d'aller de l'avant. Donc Max donnait des exemples tout simples, hein, par exemple, de choses, voilà, de professions qui se sont inventées comme ça. On parle de plus en plus de mettre du bio dans les cantines, etc. C'est pas facile de trouver les approvisionnements, de monter les réseaux, etc. Et il y a des gens qui savent faire ça, donc qui montent les réseaux, qui sont missionnés par des collectivités territoriales pour monter des réseaux d'approvisionnement, et qui sont payés non pas sur de l'argent qui prendrait au producteur, mais une mission qui est confiée par exemple par une par une collectivité. Ça c'est un exemple.
Il y a Bioconvergence par exemple en Isère, qui a été créée par Christine Viron il y a 8 ans dans cette dynamique.
Voilà, c'est ça. Donc,
qui est une ex de botanique.
Et l'idée c'est ça, c'est connaître son territoire, connaître les actions agricoles et paysannes qui se passent sur ce territoire pour estimer les besoins. C'est-à-dire sortir complètement de la logique du marketing qui est de dire on va créer un besoin pour vendre un produit, mais on arrive quelque part, quels sont les besoins, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je connais à ce milieu-là, comment moi je peux réagir, comment je peux répondre.
Il y a une question, Saba. Saba.
Bonsoir. Concernant donc l'agriculture de demain, la question que j'ai à poser est la question du prix juste. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la viabilité économique des exploitations agricole, bio ou paysanne, permaculture, agroécologie, etc. Est-ce que cette notion du prix, qu'aujourd'hui nous, non-maraîchers, payons, n'est pas la question centrale finalement ? Est-ce qu'aujourd'hui on paye le prix juste de nos aliments ?
Je vais laisser la parole à Xavier, mais la vraie question, tout à l'heure il disait avec ton billet de 10 euros ou la carte bleue, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, par exemple, j'ai créé une AMAP il y a 7 ans. C'est évident que le kilo de pommes de terre qu'on achète à Céline, qui est à Saint-Rémy-l'Honoré, à 17 km de Poigny-la-Forêt, on le paye au juste prix parce que c'est le prix qui lui permet de vivre et de payer les salariés qu'elle a. Et que quand, il y a 5 ans, elle m'a dit « je ne sais pas comment on avance, etc. », je lui ai dit « on augmente le prix du panier, on passe de 10 à 11 et de 15 à 16 ». Elle m'a dit « non, 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 j'avais même dit de 2 euros ». Elle m'a dit « non, non, non ». Je lui ai dit « mais Céline, quel choix on a ? Il n'y a pas d'autre choix. Tu fais 350 paniers par semaine, plus 3 marchés. Si tu veux continuer, on est obligé d'en passer par là ». Donc ça, c'est un témoignage à MAP, c'est-à-dire qu'on paye le juste prix au producteur qui a directement l'argent. C'est évident que quand je vais chez Natureo, n'importe où, ou Biocoop ou autre, je ne paye pas le juste prix. Je paye un prix avec des intermédiaires.
Je voudrais juste rebondir sur ce mot que j'entends depuis le début de la soirée, sur le mot exploitation agricole. Exploiter, c'est appauvrir, cultiver, c'est enrichir. Donc, on exploite une mine, on exploite un puits de pétrole. Je trouve très dommage que nous, agriculteurs, on ait accepté d'être appelés exploitants agricoles. Voilà, juste pour revenir sur un petit mot.
Alors que le thème de paysan, comme dirait Pierre Rabhi, c'est quelqu'un qui est lié à son pays, qui a un rapport avec son pays, qui est tenu par son pays en tant que paysan.
Voilà, et j'essaie d'y faire attention. J'aime pas trop, moi, me dire exploitant agricole, je trouve ça assez curieux, hein, cette vision qu'on a, cette dérive qu'il y a eu. Donc voilà, c'était juste un petit aparté parce que j'ai entendu revenir ce mot. Voilà, encore une fois, c'est Olivier Cousin qui dit ça, un viticulteur assez particulier de Touraine. Voilà, et exploiter, c'est appauvrir, cultiver, c'est enrichir.
Moi, je vais parler au niveau du prix. Quand je me suis installé, les cochons bio, en prix poids carcasse, c'est un cadran aussi, hein, c'est barbare. Mais donc les grosses coopératives comme la CAVAC ou d'autres, en fait, j'ai pas cité de nom, s'achètent des carcasses de cochons à travers toute l'Europe et le monde entier, hein, même en bio, malheureusement. Et en fait, on est tributaire de ce prix-là. Et c'est vrai que la part d'augmentation de la demande en cochon bio, elle est importante. On n'arrive pas à fournir. C'est pour ça que vous avez vu qu'il y a peu de tranches dans les grandes surfaces. En fait, ils font ce qu'ils appellent du dispatching. Et en fait, c'était de tête hein, 4,50 euros ou 3,90 euros, je ne sais plus. Et moi, pour vivre, il me fallait 5,20 euros. Parce que j'étais en extensif, parce que mes cochons ils mangeaient plus, parce que quand il pleut et qu'il fait froid, ils mangent plus, parce que quand il fait chaud, il leur faut plus d'eau et que ça coûte parce que j'avais pas de pluie, et ainsi de suite. Et quand j'ai dit ça, tout simplement, à mon acheteur, il m'a dit « mais moi je m'en fous, hein, tu te démerdes, hein. Moi je l'achète à ce prix-là, sinon j'en veux. » Et non, non, c'est pas mon problème. Donc c'est quelque chose qui est dans le monde industriel courant. Et on doit se plier à ça. Et pourquoi ? Parce que par derrière, on veut la barquette à tel prix. Ou parce qu'on a estimé que la barquette, vis-à-vis de la différence entre le bio et le conventionnel, il devait avoir telle différence de prix. Et moi, j'ai décidé de faire une rupture avec ça. Avant de faire les grands chefs, j'ai fait quelques colis de viande aux particuliers. Et j'expliquais, j'avais peur de mon prix. J'avais vraiment peur de mon prix. Je vendais mon cochon, je me rappelle, 13 euros la barquette de viande découpée, 13 euros du kilo, ça faisait autour de 110 euros le colis. Et les gens, ils étaient contents, ils souriaient, ils me rappelaient, oh, c'était génial et tout. Et moi, j'étais là à chaque fois, ça fait 110 euros, j'étais terrorisé. Et les gens, oh, merci, merci, hein, très très bien et tout. Et à un moment, je me suis dit, mais il y a un problème, c'est qu'en fait, faut pas avoir peur de son prix. Et puis, il y en a un qui m'a fait cette remarque que j'ai adorée, il m'a dit... Pouf, vous êtes largement moins cher que le bœuf bio, parce qu'il achetait du bœuf bio à 15,60 euros. Et il me dit, moi, je préfère votre cochon. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, pourquoi le cochon, il devrait être moins cher que le bœuf bio ? En fait, oui, c'est plus dur quasiment à faire en extensif. Et donc, je me suis conforté dans ma confiance de dire, bah non, j'ai le droit. Et à tel point que quand je suis allé voir le Louis XV à Monaco et que j'ai sorti mon cochonnet, que je l'ai posé sur la banque, j'ai su après qu'elle valait 66 000 euros, hein, le piano, parce que ça m'a fait rigoler, que moi j'avais peur de présenter mon cochon à 200 balles et que la banque valait 66 000 euros. Et j'ai posé ça là-dessus, je dis prouvez-moi que c'est pas le meilleur, et je me suis motivé. Hein. J'étais là, Et ils goûtent et tout, et ils me font waouh, on a un problème. Et moi je dis aïe, c'est quoi? Il me dit maintenant il faut qu'on parle prix. Et je dis c'est pas un problème ça, parce que si c'est bon, le prix ça compte pas. Et il a dit t'as raison. J'ai dit bah comme ça, vous savez pas, je vous envoie la facture, vous verrez bien.
Moi je vais prendre un autre exemple concret. Dans mon AMAP, on touche les œufs à 1,80€ les 6 œufs. Vous allez dans n'importe quel magasin, les 6 œufs c'est entre 2,60 et 3,40, pour pas dire 3,50. Voilà la différence, je ne vous, fais pas de dessin. Philippe, à qui on achète les œufs, à 1,80€, il vit, a priori. S'il les vend dans un autre réseau, il va les vendre peut-être à 1,20€, à 1,10€. Et nous, à 1,80€, on est hyper contents, parce que 6 œufs, on a quand même gagné de l'argent. Voilà, donc c'est aussi simple. Mais la différence, les 80 centimes, les 1€ ou les 1,50€ de différence, je ne vais pas vous faire de dessin de là où ils vont. Voilà. Donc le juste prix, c'est vrai que ça demande un peu d'effort de... créer, de mettre des réseaux, de voilà, mais au final, je pense que d'abord on crée un lien humain, et ça c'est super, voilà, c'est pas juste d'acheter ses produits dans des endroits. Il y a un très bon film qui s'appelle Food Cop, on a fait deux Ciné Kaizen avec, qui montre cette initiative de supermarché collaboratif à Brooklyn, donc en écho à la Louve qui a ouvert dans le 18e en novembre. Voilà, c'est pas des lieux inodores et sans saveur, c'est des lieux avec voilà, un lien.
Et puis, le prix juste aussi, c'est rigolo, parce que dans nos boulots, on peut s'amuser à casser un petit peu les lois économiques. Moi, je vendais donc des plantes qui étaient vraiment très peu communes. Et j'ai toujours trouvé que c'était un super luxe de vendre, non pas, par exemple, la poire de terre, j'en vends depuis longtemps, et de la vendre non pas plus cher, parce qu'elle était rare, que j'étais le seul à la produire à l'époque, mais parce que je la vendais un petit peu plus cher que les pommes de terre, parce que l'arrachage était plus long, plus compliqué, le cycle de culture un petit peu plus long aussi. Donc elle était un petit peu plus chère que les pommes de terre, mais j'étais super fier, moi, de pouvoir me dire que, bah voilà, les trucs, tout ce qui est rare et cher et tout, toutes ces lois de l'économique, bah nous, non, on veut, c'est du luxe quoi, hein, de dire bah non, ces lois-là, nous on n'en veut pas. Et là, par rapport à ta question, tu vois, quel est le prix juste? Bah c'est le prix qui est directement en relation avec l'effort et le travail fourni, hein, tout simplement. Hein, et pas tous les autres trucs qu'on va rajouter autour.
Et puis c'est de la vie aussi, hein. La vie, ça n'a pas de prix. Donc moi, quand je tue un cochon pour le manger, je le remercie. Et c'est vraiment... Il n'y a plus trop ce rapport-là d'amour avec les animaux. On a beaucoup de scandales qui ont lieu là, dans les différents lieux d'abattage. Mais vous savez, ce qui choque le plus les gens, c'est de voir du sang. C'est qu'en fait, on ne se rendait plus compte que pour manger de la viande, il faut saigner, il faut tuer les animaux. Et ce qui fait autant d'audience et qui fait autant de révolte, c'est parce qu'on voit des animaux mourir. Mais si on mange de la viande, il y a des animaux. Alors on a ce choix-là de dire allez, on baisse la viande. Moi, des gens qui me disent je ne mange pas de viande, mais la tienne, je la mange. J'ai plein de végétariens, et ce n'est pas des blagues, qui chez moi mangent de la viande. Et pourquoi? Parce qu'ils les voient quand ils mangent, ils les voient par ma fenêtre. Et puis ils se disent voilà, je sais d'où ça vient, je sais comment c'est fait, je sais. Tout ça, ça compte. Donc ce rapport-là aussi avec la vie, hein, c'est précieux. Il faut en être conscient, et c'est vraiment. Tout ramener à l'argent, c'est aussi dommage. Hein. Je suis de l'avis, Xavier. Hein. Ouais, voilà.
On va prendre la dernière question, parce qu'après, on va devoir quitter les lieux.
Bonsoir, merci. C'est une question qui n'a rien à voir avec ce qu'on disait précédemment. Simplement, ce que vous pensez du woofing, des woofers, est-ce que ça vous apporte une aide? Est-ce que c'est quelque chose qui met le pied à l'étrier, ou c'est du tourisme agricole?
Je sens que Xavier a une petite idée question.
Je sais que c'est une question.
Est-ce qu'il y a du woofing au Mali?
C'est une question que je. Oui. Parce qu'on est allé aux Amanins cet été. Et il y avait donc du woofing. On avait un discours, justement. Je voulais avoir votre avis.
Alors, le woofing aux Amanins, pour connaître la question, n'est pas forcément le woofing comme il a été initialement conçu.
Ah, je suis désolé, moi je suis hyper teigneux sur le woofing. Je ne parle pas pour ferme d'avenir, hein, là je parle vraiment en mon nom. Mais de temps en temps, particulièrement quand j'étais sur mon propre lieu, on me proposait du woofing. Et le truc c'était, est-ce qu'on peut venir vous donner un coup de main? Est-ce que tu as envie d'aller aider ton... Pourquoi tu me demandes un coup de main, tu veux me donner un coup de main, tu ne le proposes pas à ton notaire, tu ne le proposes pas à ton dentiste, Donc pourquoi à moi? Bon, pour, après tout, pourquoi pas? Alors dans ces cas-là, oui, avec plaisir, un coup de main. Donc j'aurais besoin de quelqu'un pour faire la vidange du tracteur, pour faire la compta. Si tu peux faire les carreaux, parce que ça, je déteste ça, de la maison. Et toujours, c'est, bah non, 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 moi, ce que je veux, c'est participer aux travaux du champ. Ah, attends, c'est pas pareil, là. C'est pas à moi que tu viens de donner un coup de main. Tu veux venir participer aux, aux travaux du champ, très bien. Et donc, t'es formé, t'es compétent, etc. Si, je connais un... Ah ouais, alors, donc là, c'est, on va remettre les choses à l'endroit, maintenant. C'est-à-dire que c'est moi qui dois te donner un coup de main à t'apprendre des trucs, là. Mais, enfin, voilà, parce que c'est pas un boulot de manute, ce qu'on fait. C'est pas, je vais pas te faire prendre une caisse à gauche pour la mettre à droite et la reprendre à droite pour la mettre à gauche. Donc, c'est pas très clair, en fait, cette histoire. C'est pour ça que j'ai toujours eu des difficultés avec le woofing. J'adore, par contre, réellement former. C'est vraiment un truc que j'aime. J'adore recevoir des stagiaires dans un contexte précis, non pas qu'il faille un diplôme à la clé ou un truc comme ça, hein, mais là, le woofing, je trouve que ça part sur un truc que je trouve pas super clair, en fait. C'est pas clairement émis que le deal qu'on passe ensemble, quoi. Donc c'est pour ça que moi, là-dessus, j'ai un doute. J'ai un deuxième doute aussi sur le fait que, effectivement, attention, il n'y a pas que ça, etc., etc., etc. Mais voilà, il y a aussi une forme de travail dissimulé qui peut se cacher derrière le woofing. Après, je pense que le woofing, il a été aussi passionnant pour plein de gens et l'occasion de découverte. Voilà, moi, j'ai du mal avec ça, mais ça, c'est vraiment que moi que ça engage.
Voilà, voilà, voilà. Mais ces rotules aiment.
Ouais, pour allonger la période de vie aussi de, et avoir le plaisir de faire du maraîchage un peu plus longtemps, quoi, non? Enfin, j'ai envie d'entendre un peu d'optimisme dans vos propos. En fait.
Mais ça n'a rien à voir avec l'optimisme ou le pessimisme, ça.
Non,
c'est,
non, mais je veux dire, tout à l'heure, vous disiez qu'il y a quand même la pénibilité du travail maraîcher et,
bah oui,
et très, très dur. Ah après, ouais, c'est peut-être l'organisation. C'est vrai que le woofing... sur des périodes d'une semaine, le coup de pouce d'une semaine, ce n'est pas forcément utile. Donc, l'organiser...
ouais, la question, c'est le juste contrat de pourquoi on le fait, en fait.
Voilà, et puis c'est compliqué.
Nous, chez Tarehumanisme, on a du bénévolat. Donc, vous pouvez venir deux semaines, vous êtes bénévole. Ce n'est pas du woofing, vous êtes bénévole et vous aidez. Et clairement, on sait que vous ne savez pas. Donc, ouais, les gens viennent, ils campent, ils se font à bouffer. Ils adhèrent 5 euros à l'assaut. Ils sont là pendant deux semaines. Ils sont hyper heureux, ils ne peuvent pas se payer les stages. Et ils viennent en Ardèche, finalement... vivre une expérience. Mais le deal est clair. Et c'est vrai que dans la terminologie de woofing, d'abord entre les Amanins, les Landes, la Drôme, etc., c'est très varié. Il y en a, c'est vraiment de l'exploitation humaine. Je veux dire, il y a des gens, moi j'ai des copines qui ont fait du woofing en Australie, c'était très intensif, très physique. Donc je pense que là où je te rejoins, c'est quels sont les besoins d'un côté et de l'autre, pour qu'on soit assez clair. Moi j'ai eu des... abonnés de Kaizen qui sont allés en woofing en France dans un endroit, ça s'est pas bien passé du tout, parce que le besoin du paysan qu'il avait exprimé et leurs besoins, eux, qu'elles avaient plus ou moins exprimés, n'étaient pas clairs. Et le truc est parti en sucette, parce qu'à un moment donné, on n'est pas là pour les mêmes raisons. Et donc, voilà.
Et puis, après, est-ce que c'est... je me suis aussi, c'est une autre question que je me pose. Hein. Je n'ai pas la réponse à ça, hein, non plus. Hein. Il y en a plein auxquelles je suis incapable de répondre. Mais si tu as besoin, dans ton boulot, que tu sois maraîcher, dentiste, notaire, etc., si tu as besoin, dans ton boulot, qu'il y ait des gens de l'extérieur qui viennent travailler gratuitement pour que ton boulot tienne, est-ce que c'est une véritable aide ou est-ce que c'est un leurre? Voilà, c'est une question que je me pose. Je n'ai pas la réponse.
Bon, je propose de conclure, les amis, parce que on me montre... J'ai plusieurs choses à vous dire. D'abord, je voudrais remercier Xavier, Nicolas et Jean-Louis, vraiment.